Un petit effort mental pour un gros profit pour tirer profit de la pensée. Chacun a une réalité différente, que l'on construit à partir de la pensée. Ici je donne des outils qui aideront à améliorer la pensée et avec elle votre réalité. L'éducation pour le travail acharné ne donne rien à personne, elle aboutit généralement au résultat inverse. La bonne éducation consiste à rechercher un petit effort pour un gros profit. L'une des belles choses à propos de l'éducation est qu'il y a de petites astuces que nous pouvons faire sur nous-mêmes et sur les enfants pour réaliser cet énorme profit. L'un d'eux est la compréhension que le plaisir du désir est plus grand que le plaisir lorsque vous réalisez quelque chose, ce qui signifie que vous devez toujours vous efforcer d'obtenir quelque chose, car alors ce plaisir nous pousse constamment, il y a du sens. Avec un petit effort, c'est très facile, arrêtez de sauter d'un endroit à l'autre avec votre attention. Vous savez les gens qui se concentrent comme des fous et vous devez vraiment les réveiller? Leur attention n'est pas dirigée vers plusieurs endroits, ils se concentrent sur un seul endroit. Je suis comme ça. Sauter d'un endroit mental à un autre coûte très cher et gaspille votre profit, et crée de la confusion. Le cerveau humain est construit pour pouvoir se concentrer sur une chose à un moment donné, et lorsque nous sautons d'une chose à une autre, il nous faut du temps pour revenir. Le monde moderne regorge de mille distractions et tentations, mais les grands gagnants sont ceux qui savent se concentrer, et cela convient plus à une personne dans la nature dont nous venons. Il n'y avait pas mille distractions et SMS et vidéos, notre attention était généralement concentrée sur une seule chose, cela a un effet énorme sur notre bonne vie. L'esprit, nous sommes récompensés lorsque nous prêtons attention et que nous sommes occupés dans le présent, et l'attention est en fait une sorte d'amour. Une grande partie du temps dans l'attention totale, nos amis aussi. C'est-à-dire que savoir faire attention améliore non seulement notre façon de penser mais aussi nos relations, qui sont la pierre angulaire d'une bonne vie. Un manager légendaire et de préférence un ingénieur dans le ministère de l'éducation comme le ministère de la santé et les autres ministères du gouvernement devraient constamment expérimenter de nouvelles méthodes dans des endroits spécifiques et, si elles fonctionnent, les appliquer à l'ensemble d'Israël. Ne soyez pas figé, mesurez le succès et améliorez-vous constamment. Ce qui manque à tout le monde dans le système éducatif en Israël, c'est l'importance d'un manager légendaire pour le système éducatif. Un tel manager devrait avant tout être un ingénieur analytique avec une formation pédagogique. Et non l'inverse. L'éducation nous reflète à quoi nous ressemblerons dans 10 ans ou plus. Chaque action dans l'éducation nécessite un retour d'information, à l'aide duquel il est possible de trouver des moyens d'optimiser ce que nous avons fait ou de l'annuler. Les problèmes du système éducatif ne sont pas le bas salaire des enseignants ou le petit nombre d'entre eux, mais la structure du système, le manque de gestion, de contrôle et de créativité qui attire un personnel insuffisamment compétent. La solution, une gestion centralisée forte par un seul responsable et une révolution dans tout le système éducatif, réduire les matières, inculquer des valeurs, créer des personnes. L'important est d'améliorer la capacité des élèves à penser par eux-mêmes et non à mémoriser. Il n'y a pas de données sur Israël, mais il y a fort à parier que nous sommes comme les États-Unis où l'intelligence moyenne diminue. La raison la plus probable, c'est le manque de lecture de la nouvelle génération due aux réseaux sociaux et aux vidéos irréfléchies dont nous sommes inondés. L'intelligence décline aux USA selon cette étude. Se souvient des idées et des processus, c'est en fait un modèle mental que le cerveau produit pour comprendre ce qu'il voit et comment réagir. Apprendre à connaître ce cadre, il apparaîtra beaucoup. Ce que vous avez lu maintenant devient également un cadre. Pensez à un cadre comme les blocs de la pensée, vous pouvez en créer de nouveaux, construire des tours, détruire des tours, tout est construit à partir de cadres qui incluent presque tous des cadres dans le contenu. Il s'agit de la façon dont nous construisons notre compréhension individuelle de la réalité basée sur notre expérience, croyances, valeurs, connaissances et culture neutre. Notre réalité n'est pas un cadre, mais se compose probablement de millions de petits cadres, mais je n'ai pas compté. Un cadre que nous avons utilisé récemment est plus facile à récupérer, comme le cache d'un ordinateur. Il est important de se rappeler que si le cadre de notre réalité peut nous guider, il n'est qu'une représentation du monde et non un reflet fidèle de l'objectif. Réalité. L'air chaud monte, est un état d'esprit, qui dépend d'un autre cadre de ce qui est, air, et de ce qui, monte. Le cadre le plus proche dans chaque domaine sont des modèles dans notre cerveau, des modèles prêts à faire face rapidement à des situations similaires, qui définissent la réalité. Il existe de nombreux modèles de ce type pour une compréhension rapide de ce que vous voyez. Par exemple, vous voyez quelqu'un en face de vous sourire et vous vous sentez immédiatement moins menacé, c'est un état d'esprit important. Par conséquent, chaque personne se souvient différemment de la réalité, car les cadres qui existent pour lui sont différents les uns des autres, et nous étiquetons réalité avec des cadres existants ou en créer de nouveaux. Le cadrage dans de nombreux domaines présente un énorme avantage pour ceux qui cadrent dans de nombreux domaines. La plupart des gens cadrent à partir d'une zone centrale. Tout comme un joueur de football obtient un avantage s'il a déjà joué au basket, cela aide pour mieux voir ceux qui l'entourent. Les cadres du monde de la terre et du monde de l'esprit s'intègrent mieux l'un dans l'autre, la meilleure façon est de traiter simplement de nombreux domaines qui vous intéressent. J'ai toujours aimé agir et moins faire des recherches, c'est ainsi que j'ai fondé plusieurs entreprises et à partir de là, vous obtenez de nombreux cadres de réalité par l'activité. J'ai adoré Tanar, la musique, la psychologie, le football, le poker, les mathématiques, la physique et l'économie. J'ai encadré beaucoup de choses à partir de là que je transfère habituellement de l'une à l'autre. Une personne intelligente est quelqu'un qui sort rapidement de vrais cadres de n'importe quel domaine. La capacité retirer et ajuster et produire des cadres appropriés est en fait de la sagesse. Notre capacité à produire de nouveaux cadres est bien sûr basée sur des cadres existants. Les cadres existants ont été acquis au fil du temps, donc les gens ne naissent pas avec des cadres mais les produisent, comme tout ce qui nécessite capacité, produire des cadres nécessite également une formation. Une conclusion importante ici est que vous n'êtes pas né intelligent mais que vous acquérez cette capacité grâce à la formation. Évidemment, il y a un élément génétique ici, mais la formation est beaucoup plus importante. Où avez-vous gagné en forme physique est équivalent à la question, où avez-vous gagné en sagesse? Le cadrage vous donne une meilleure compréhension de la réalité et donc vous aussi vous pouvez mieux anticiper l'avenir que les autres, c'est un énorme avantage pour le gain matériel et immatériel. Supposons que j'encadre que le casino profite statistiquement des gens, à partir de là, il est déjà possible d'encadrer qu'il ne vaut pas la peine de jouer pour l'argent mais uniquement pour le plaisir. Juste un petit exemple de l'avantage de l'encadreur. Le moindre profit est attendu dans les cadres pour pratiquer le déplacement des cadres d'un champ à l'autre. Le profit lorsque vous avez des millions de cadres consiste à les récupérer rapidement, à les transférer et à les mettre à niveau. La mise à niveau, la suppression et la production se font par rétroaction et c'est un point critique, parfois vous devez supprimer des cadres, en particulier ceux sur lesquels nous avons grandi. Par exemple, les gens intelligents gagnent de l'argent, supprimez-le et encadrez-le comme. L'argent est gagné par des personnes qui se sont entraînées pour gagner. Disons que vous avez un cadre psychologique, selon lequel les gens n'aiment pas désobéir aux instructions. Vous voulez pour faire la publicité de votre entreprise, vous donnerez donc dans l'annonce une instruction, allez sur le site maintenant et achetez. Il est bien sûr important d'avoir un retour d'information pour savoir si cela a fonctionné, car un framework fiable a fait ses preuves. Notre monde est connecté et similaire dans de nombreux domaines, donc l'énorme profit réside dans le transfert de cadres d'un domaine à l'autre. Nous avons fondé plus 500 et gagné énormément d'argent en suivant un cadre mathématique que j'avais en tête et que j'ai appliqué au domaine de la finance. Bien sûr, pour construire plus 500, des milliers de petits frameworks étaient nécessaires, qui étaient différents pour chaque fondateur. L'un des cadres consistait à « copier et améliorer les entreprises prospères ». Un autre cadre consistait à « ne copier que l'essentiel », et puis il n'y a pas besoin d'un projet énorme et interminable. Prenons l'exemple de Google, il n'a pas copié tout Yahoo, seulement la « boîte de recherche ». Comment accumuler des cadres? Il n'y a pas de solution magique ici, pour accumuler des cadres selon mon expérience, il faut réfléchir, lire, apprendre une deuxième langue ainsi que pratiquer les mathématiques, la physique et les sciences. Il existe des cadres maraudes fiables qui ne nécessitent pas de rétroaction. Dans l'activité, il y a des cadres qu'il est presque impossible d'apprendre dans les livres et ce sont des cadres de la réalité tels que, lorsque vous démarrez une entreprise, tout le monde s'entend très bien mais cela change avec le temps, ce n'est qu'un exemple de cadre qui ne peut être obtenu qu'à partir d'une activité réelle. Un deuxième langage produit des frameworks car il y a des mots qui représentent un framework qui n'existe pas dans votre langue principale, comme « optimize » en anglais. Aussi un langage de programmation car il a des frameworks. C'est pourquoi il est beaucoup plus sage de cadrer et non de mémoriser, l'idée est ce qui est important. L'importance de la science dans les cadres réels. Le plus gros gain est quand on obtient un cadre réel, et cela se produit bien sûr aussi bien dans les sciences que dans les livres théoriques aussi bien que dans les journaux qui écrivent sur une histoire qui vraiment, l'interprétation peut être ignorée. Le danger est d'obtenir des images irréelles, ce qui se produit souvent à partir de nombres imaginaires, d'Internet, de YouTube ou de pensées infondées. C'est pourquoi j'essaie toujours de cadrer à partir de sources fiables et de recouper avec ce que je sais. La meilleure formation pour les cadres est la section la plus importante dans les cadres car elle améliorera votre réflexion même. Il a raison à Anne-Lie, mais si vous n'avez rien pris, du moins prenez-le d'ici. La façon dont je m'entraîne dans les cadres est de simplement penser aux choses. Oui, pensez simplement aux événements, aux cas, aux sentiments, à la nature, au profit et demandez « Pourquoi ?» C'est comme ça que j'ai eu l'idée de « Les cadres » et de « La libre pensée ». Alors la prochaine fois que vous monterez dans le bus et que vous mettrez votre tête sur la fenêtre, pratiquant à l'Emsgar j'espère, rappelez-vous que c'est comme ça que je le fais même quand je ne suis pas dans le bus. Pour changer qui vous êtes, moi et deux amis étions marchant à Eilat et soudain une ligne m'a sauté aux yeux à l'ami chanteur parmi nous. Ce n'est pas facile de changer qui tu es, ce n'est pas facile d'être une rockstar. C'était dans un segment humoristique à son sujet, car il était loin d'être une rockstar. Il a composé cette chanson et elle est excellente soit dit en passant, mais j'ai réalisé qu'il est vraiment difficile de changer qui vous êtes aujourd'hui après avoir changé de l'air « business ». Le changement a été progressif et très lent mais découlait du désir d'être proche à la nature, puis de l'habitude de marcher dans la nature, cela l'a intensifié. Les habitudes définissent en fait qui vous êtes, alors quand je veux changer quelque chose, je pense à pourquoi je voudrais changer et ne pense pas à un objectif qui n'a rien à faire avec moi. Il vaut mieux penser à changer d'entreprise ou de soi-même et pas seulement à un objectif de « gagner de l'argent ». Amélioration continue par méthode, puis bon voyage. Et c'est exactement le chaînon manquant du succès que je ne savais pas définir jusqu'à présent. Pour gagner, et quoi qu'il arrive, un plan, une ambition ou une idée ne suffit pas, il faut construire des habitudes pour l'objectif, et j'ai fait ça toutes ces années sans m'en rendre compte. Cela a commencé tôt le matin, de la lecture de journaux économiques à la lecture quotidienne de notre produit, en passant par la lecture de livres sur les affaires et bien d'autres habitudes. Pour réussir au lycée, j'avais l'habitude d'étudier 3 jours du matin jusqu'à 16 heures. La partie non négligeable, et c'est le point avec lequel vous allez rentrer ou courir chez vous, c'est qu'il est plus important de penser en termes de qui tu veux être que d'où je veux aller, parce que, où je veux aller, vient du désir que notre est quelque chose. Je veux être une bonne personne, ou, être un écrivain. Le changement est vraiment difficile, mais vous verrez la solution à cela dans, une habitude réussie. La façon de changer qui vous êtes passe par les habitudes, et quand quelque chose devient une habitude alors c'est facile de devenir pianiste, c'est comme devenir pour être mathématicien, il faut une habitude quotidienne afin d'être à l'opposé de l'une ou des deux. Une habitude réussie dans les tours devient une si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que vous devez rechercher des méthodes qui fonctionnent et non quelque chose d'unique. Une habitude est une méthode, c'est une méthode pour nous entraîner pour le mieux. Si vous parvenez à maîtriser habitudes, les vôtres contrôleront où vous allez et il vous sera facile d'être ce que vous voulez. Les habitudes peuvent être contrôlées avec des astuces, car elles sont très insaisissables. Nos habitudes sont faites pour la savane en Afrique et moins pour un appartement au 8e étage du centre de Tel Aviv. Petites améliorations continues. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un long processus de petites améliorations quotidiennes à travers les habitudes. Chez Plus 500, je n'avais pas à réfléchir à la façon d'éteindre les incendies, car j'avais l'habitude de traiter le problème en permanence et non les symptômes, donc c'était facile. L'habitude ne demande pas d'effort. Une autre habitude était de toujours me demander dans chaque offre quel est le bénéfice et quel est le risque. Je sentais que les autres n'avaient pas cette habitude, mais pour moi le risque sautait toujours. C'était l'habitude quand j'étais enfant. Comment puis-je gagner de l'argent? L'habitude n'est pas un travail. Quand vous faites quelque chose par habitude, ce n'est pas un travail. C'est comme une récompense. C'est comme un insecte dans notre tête que nous gagnons pour de bon, cela a aidé dans les temps anciens à faire des choses répétées de Sisyphe et à en profiter, cela a contribué à notre survie la tendance aux habitudes. Comme tout, il y a ceux qui l'ont fortement ancré et il y en a moins, mais pour que chacun profite de la tendance aux habitudes. Vous pouvez également gagner en cassant des habitudes, et c'est une pensée libre à la fin de gagner pas seulement pour creuser. Sans vraiment m'en rendre compte, j'aime beaucoup mettre en place des habitudes, une des habitudes que j'ai toujours aimé est de me lever tôt. La voie intérieure de l'addiction est la clé. L'addiction est en fait une mauvaise habitude, qui n'est pas bonne pour nous car nous ne cessons de la répéter. Notre cerveau nous ment, dans ce cas, il nous signale, vous ne vous en sortirez pas sans café. C'est impossible de manger sans sel, ce n'est pas bon. Tu n'es pas assez intelligent pour apprendre les maths, semble-t-il dire comme un fait. La clé de la victoire ici est de ne pas y croire, et la vérité est que la majeure partie de cette phrase, « vous ne vous en passerez pas » ou « c'est impossible sans » est un mensonge, car nous, les humains, sommes des créatures adaptables, Nous pouvons nous habituer à presque n'importe quoi, et le grand secret c'est qu'au final on s'amuse presque de la même manière, même si le cerveau signale parfois « je ne peux pas m'en passer », vous apprendrez à le contredire et ensuite il vous sera facile de penser librement à de nombreux problèmes et briser les mauvaises habitudes. Je me suis aussi battu pour briser les mauvaises habitudes, l'une d'entre elles était de fumer, de 20 à 30 ans, j'ai fumé environ un paquet par jour, il m'a fallu 2 ans pour lutter contre cela habitude jusqu'à ce que je gagne, c'était vraiment, vraiment dur. Je n'ai tout simplement pas abandonné, j'ai craqué et j'ai recommencé à fumer environ 10 fois au cours de ces 2 années. Alors là aussi c'est un succès qui a duré 2 ans. L'habitude de ne pas oublier et de louer constamment plus 500, j'avais une petite habitude d'écrire sur une page toutes les choses importantes qui doivent être faites dans l'entreprise, puis de les pousser tous les jours, comme, entrer en Estonie, émettre, et aussi des petites choses, fermant avec Tomé la couleur du logo. C'était une habitude de l'écrire et de le faire pour ne pas l'oublier. Cette habitude est avec moi-même en libre pensée, j'ai une idée donc je écrivais le sur WhatsApp pour moi-même. Ces habitudes ont essentiellement défini l'entreprise et moi. C'était lié à ce que vous vouliez pour plus 500, être une entreprise modèle, donc l'habitude de l'améliorer tout le temps y était liée. Qui êtes-vous et non ce que vous voulez réaliser ? L'action s'intensifie le changement et nous prouve que ce que nous voulons être se produit réellement, il est donc essentiel de parler en action, qui deviennent des habitudes qui nous changent, dans la poursuite de là où nous voulons être. Aujourd'hui quand quelqu'un me pose une question, et que je me demande si je dois mentir, je me dis, je ne suis pas un menteur, et non, je ne mentirai pas. C'est plus facile quand le pied se connecte à qui tu es. Il est très difficile d'être quelqu'un d'autre tout le temps, donc les habitudes doivent correspondre à qui vous êtes, par exemple, un athlète, fiable, sociable et généreux, donc les habitudes qui conviendront sont le sport, dire la vérité, être socialement actif et courir le matin. J'ai juste donné des exemples mais aussi dans la société quand elle a une vision de comment ça devrait être c'est facile de mettre en place des habitudes comme méthode pour la société, mais il faut que ça se conjugue avec ce que représente la marque. Liberté quand on y pense dans un esprit libre, alors les habitudes nous donnent la liberté mentale parce que de bonnes habitudes d'argent nous libèrent des problèmes financiers, les habitudes alimentaires nous rendent en bonne santé et puis il y a du temps pour être libre et ne pas faire face aux problèmes qui manquent de les bonnes habitudes nous causent. Je suis toujours venu préparer pour les tests car j'avais l'habitude d'étudier quelques jours avant le test, ce n'était pas un effort car j'y étais habitué. J'ai vu, entendu et signé que ce qui nous motive à faire une habitude est généralement un certain déclencheur, il n'y a pas de bon mot pour cela en hébreu, sauf so. Mais c'est un mot difficile que j'ai dû chercher et c'était la première fois que je le rencontrais. La puissance est fonction de la force des sens. Pour nous humains le sens de la vue est le plus développé et donc le plus important et il faut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Tu sens le chocolat donc tu as envie de manger du chocolat. Vous regardez la télévision, vous voulez donc vous reposer et regarder un film. Il y a généralement un déclencheur pour nos habitudes. Le sens de la vue occupe une grande partie de notre cerveau, donc la vue est un déclencheur très important pour nos habitudes. L'une des choses qui aide vraiment à assimiler et à mémoriser les habitudes que nous voulons est de dire eux à voix haute. Cela active le déclencheur du sens, oui. Il n'y a pas de gens qui résistent aux tentations, il y a des gens qui les cachent. Quand il n'y a pas de glace dans le frigo, mes enfants ne demandent pas de glace. Le grand secret est de ne pas activer les déclencheurs des habitudes que nous ne voulons pas et aussi d'introduire les déclencheurs des habitudes que nous voulons. Tout le monde a un certain nombre de tentations auxquelles il peut résister. Notre gros gain, c'est généralement de ne pas voir les déclencheurs. Il est très difficile de pratiquer sans être tenté, mais il est beaucoup plus facile de cacher délibérément les tentations, et c'est exactement la libre pensée à son meilleur, un gros profit avec peu d'effort. Petit effort pour cacher un déclencheur, effort fou pour éviter un déclencheur pour une tentation disponible. Disons que je veux moins utiliser mon téléphone portable, je vais juste le mettre dans la voiture, donc je dois aller à la voiture pour prendre le téléphone portable, chaque fois que je veux vérifier quelque chose. Cela a vraiment réduit mon utilisation du des études ont montré que les personnes les plus stables ont tout simplement appris à ne pas rencontrer de tentation. C'est le grand secret. J'en ai envie, j'en ai pas envie. Une de mes méthodes sympas c'est le « leg peel ». Je fais déjà tout ce que je n'ai pas envie de faire d'un coup. Laver, jeter les poubelles, et plier le linge. Je l'appelle « la pile d'habitude ». Je le fais aussi en marchant, j'y ai ajouté l'habitude d'écouter un livre de schéma. Et aujourd'hui quand je marche ça me manque vraiment d'écouter un livre de schéma. J'écoute le livre, bien sûr, sur le haut-parleur et non avec des écouteurs sans fil, qui irradient plutôt nos cerveaux et ne sont pas recommandées. Combien de répétitions de l'habitude afin d'inculquer l'habitude ? La chose la plus importante est de savoir combien de répétitions nous faire de lui et pas combien de temps il est. Disons que je veux inculquer l'habitude de lire, il vaut mieux lire 20 minutes par jour plutôt qu'une fois par semaine pendant 2 heures. C'est différent d'autres choses que nous avons l'habitude d'apprendre à courir, par exemple, que l'habitude sera facile à prendre lorsque nous commençons quelque chose qu'il est difficile pour nous d'arrêter tout comme il est difficile de commencer. Et c'est le petit effort que nous recherchions, l'effort pour commencer. Mon petit garçon en première année ne voulait pas faire ses devoirs, nous n'étions pas excités bien sûr, mais je lui ai suggéré de les mettre sur la table de la cuisine ouverte pour les faire et de ne pas les faire, car je serais contrarié s'il les faisait. Après un repas, j'ai vu qu'il faisait un exercice d'arithmétique. Cela a fonctionné sur lui. Maintenant, je devais penser au prochain mouvement qu'il les ferait dans une atmosphère calme dans la pièce, le lui présenter comme d'habitude. Juste une habitude me fera arrêter de travailler, et il y aura un petit effort et un gros profit pour moi et pour lui. Précisément à cause de la « loi de convenance », il est important que nos habitudes soient faciles au début. Si vous voulez pour aller courir tous les jours, cela vous aidera vraiment que tout ce dont vous avez besoin soit de quitter la maison et de commencer à courir. À vrai dire, dès que vous vous changez en tenue de sport, il est certain que vous allez courir, bref, assurez-vous que le début est confortable, marchez dans un environnement adapté. Nous n'avions pas d'argent pour acheter des meubles, alors papa les a construits lui-même pendant que je le regarde et que je l'aide et que je le gêne un peu. Quand j'ai fermé la porte de ma chambre, il y avait une atmosphère calme sans distraction, je me souviens encore à ce jour du sentiment de silence et d'ordre qui m'aidait à me concentrer sur les devoirs et les études. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi cela m'a tant apporté, parce que cela m'a permis de prendre l'habitude d'étudier sans distraction, l'habitude de me concentrer. Il n'y avait pas de déclencheur pour les habitudes qui ne m'ont pas contribué. Depuis lors, j'apprécie vraiment l'habitude de me concentrer parce que nous aimons les habitudes, c'est un trait construit au cours de millions d'années d'évolution. Dès que j'ai fermé la porte de la pièce et que c'était calme, cela a immédiatement créé un déclencheur pour que j'apprenne. C'est pourquoi le travail dans un bureau est plus efficace que le travail à domicile pour la plupart des gens, cela les incite à « travailler », créer un tel environnement pour vos enfants et vous-même et ce sera facile pour eux. Oui, un téléphone portable à côté d'eux est un déclic terrible, ils ne devraient pas être là. Un mot est un contrat entre eux, facilitez-vous la vie, voulez-vous une vie facile? Assurez-vous qu'un mot est un mot dans votre maison. Et après cela sur votre lieu de travail, nous communiquons entre nous par des mots. La chose la plus importante à transmettre à nos enfants et à nous-mêmes est qu'un mot est un mot. Sinon, il n'y a pas de fondation stable dans la maison. Sinon la communication n'a aucun sens et tout doit être vérifié et dit plusieurs fois. Il y a un très gros profit ici si tant dans notre vie de famille que dans notre vie professionnelle et sociale nous nous entourons de personnes dont la parole est la parole. Les enfants apprennent de nous quand ils voient que chez nous un mot est un mot. Imaginez un monde où la plupart de ce que les gens se disent, ils le font réellement. Parfois, il n'y a pas le choix et il faut bluffer un peu pour ne pas offenser, mais la plupart du temps, vous pouvez rester fidèle à votre parole. Les personnes les plus dangereuses que j'ai connues sont celles qui n'ont pas tenu parole. J'ai élevé mes enfants avec la même éducation que j'ai reçue. La parole a de la valeur, et ils s'en tiennent à ce qu'ils disent. Un talent à investir du temps au cours duquel mon cursus a été de vivre aux USA pendant 2 ans dès l'âge de 10 ans, ce qui m'a donné une deuxième langue et une familiarité avec la culture américaine, où les choses sont faites jusqu'au bout et non comme en Israël jusqu'à 70%. Un père qui parlait beaucoup du technion et des mathématiques et de la physique, donc j'ai toujours investi dans les mathématiques et la physique. Tous les pères de mes amis d'enfance ont étudié à Anne et étaient membres du corps professoral du Technion. Avec l'encouragement de mes parents, j'ai lu le journal Haaretz, principalement sa rubrique économique et celle de Ma'ariv. Ma mère et mon père m'ont constamment inculqué l'idée que tout est possible et que la famille Gonon n'a peur de rien. J'ai grandi dans le quartier d'Anya à Haïfa, un quartier de gens riches, mais nous étions plus que des pauvres. L'une des idées dont mes parents parlaient toujours est l'argent que vous gagnez dans le métier que vous étudiez, donc dès mon plus jeune âge, j'ai compris que les entreprises en démarrage peuvent gagner beaucoup mieux. J'ai aussi entendu des histoires et vu mon oncle du monde arabe, Shlomo Gonon, qui a réussi tout seul. Pendant tout ce temps, j'ai joué au football, au basket, au squash et au surf, un sport qui m'a constamment poussé à réussir. Les Égessués, j'ai rencontré les Égesses lors d'un voyage avec des amis, et j'ai réalisé que le terrain de jeu est vraiment bon pour les Juifs, il suffit d'être du côté de la maison. Relisez mon parcours et vous comprendrez qu'il ne s'agit pas du tout de jardin, c'est simplement un parcours un peu rare à parcourir, mais quand on comprend ce que chaque carrefour a donné, c'est facile de construire d'aussi beaux parcours pour les enfants ou vous le même parcours. L'analyse par les mathématiques et la physique qui donne un avantage intellectuel, une deuxième langue également selon la recherche donne un avantage mental, une culture de la perfection et de la politesse comme celle des États-Unis, la confiance en ses capacités, étudier dans une haute institution académique, participant à une équipe sportive pour forger le caractère et la réussite, la lecture théorique de Jourmont, de livres et le désir de réussir. Il est si clair qu'il n'y a pas de jardin ici, seulement des environs. Rien ne s'est passé facilement, le début a toujours été très difficile et c'est pourquoi il est si important de révolutionner le système éducatif en Israël et d'inculquer le principe que tout est formation et travail acharné. Lorsque vous exercez la libre pensée, vous vous rendez compte que vous ne naissez pas avec succès, vous naissez égaux. Apprendre d'Apsani, j'ai vu cela tout au long de ma carrière, par exemple Johnny Levy qui travaille avec moi sur la libre pensée, a appris lui-même à être un designer avec quelques cours, et conçoit tout lui-même. Elad Ibn Shen qui a commencé avec nous chez Plus 500 sans connaissance du marché boursier est devenu un directeur financier de premier plan, nous avons la capacité d'apprendre tout, c'est juste l'envie et le temps et parfois l'âge. C'est vraiment surprenant car on aime tout attribuer au « talent naturel », mais la majorité est au « talent » pour investir du temps. Une section importante, si vous n'avez pas la force de lire cette section, vous y trouverez de la force, car l'expliquer aux enfants et aux jeunes est essentiel, afin qu'ils croient que tout est possible avec un entraînement délibéré, vous ne pouvez pas faire quelque chose de grand sans rêver, et vous ne pouvez pas rêver sans y croire. Oui, fait référence à la capacité rare d'une personne à reconnaître ou à reproduire une note de musique sans tonalité de référence. Diverses expériences ont été menées pour comprendre la nature de l'audition absolue, et si elle peut être acquise ou améliorée par l'entraînement. Sa prévalence est relativement rare, et les estimations indiquent qu'environ une personne sur 10 000 possède cette capacité. Mozart avait cette capacité. Donc Mozart était 1 sur 10 000 et avait des parents avec une éducation musicale qui l'ont poussé dès l'âge de 3 ans, soit disons 1 sur 1000, ce qui veut dire que Mozart était 1 sur 10 millions. Il semble trop rare ces ourlets. Il y a près de 4 décennies, Kazuko Aguchi, une jeune professeure de musique japonaise, a été déçue par son incapacité à posséder l'ouïe absolue. En conséquence, elle a créé un programme d'apprentissage précoce connu sous le nom de méthode d'entraînement d'accord des Gochi, qui est conçu pour aider les jeunes apprenants à acquérir une hauteur parfaite. Des musiciens éminents tels que Mozart, Beethoven, Mariah Carey, Jimi Hendrix et Yanni ont une « oui absolue ». Depuis l'introduction de la méthode des Gochi, des milliers d'enfants japonais ont développé avec succès la capacité de reconnaître les notes à l'oreille. On pensait qu'ils naissaient avec mais qu'ils l'apprenaient. En 2012, la chercheuse Ayako Sakakibara a publié une étude portant sur 24 enfants à qui on enseignait en utilisant la méthode d'enseignement des accords des Gochi. Sur les 22 qui ont terminé l'étude, tous ont atteint une audition absolue. La recherche a indiqué qu'avec une exposition et une formation appropriée, il est possible de développer une audition absolue, et n'est pas seulement un cadeau unique accordé à quelques privilégiés. La méthode des Gochi repose sur des séances d'entraînement courtes, fréquentes et ciblées. Le craquage doit commencer mais dès le plus jeune âge, alors en quoi est-il lié à la réalisation de nos objectifs? Un point de départ de l'apprentissage de l'audition absolue est que notre capacité à apprendre ou à réussir n'est pas limitée. Au contraire, la façon dont nous abordons nos objectifs est ce qui compte vraiment. Les élèves de l'école d'Aguchi ne se sont pas engagés dans un apprentissage aléatoire, mais sont passés par un système structuré de pratiques délibérées pour acquérir une oreille parfaite. Suresh Kumar Sharma, un Indien doté d'une mémoire extraordinaire, a gravé son nom dans l'histoire lorsqu'il a battu le record du monde de récitation les places les plus décimales de pi de mémoire. Point. Cette constante mathématique, représentée par la lettre grecque pi, est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre et est un nombre irrationnel avec un nombre infini de décimales. Le précédent record était détenu par l'Indien Rajver Mina, qui récitait 31 415 chiffres en 2015. En octobre 2020, Sharma a relevé le défi de battre le record. Au cours de 17h et 14 minutes, il a soigneusement récité 50 000 décimales de pi sans erreur. Son exploit incroyable a été vu et documenté par Guinness World Records, cimentant sa place en tant que nouveau détenteur du record du monde. A-t-il un cerveau brillant ou vient-il de faire de l'exercice comme un sanglier, qu'en pensez-vous? 14 mars, 3/14e, représentant les trois premiers chiffres de pi, 3,14. La réussite de Sharma est une source d'inspiration pour ceux qui essaient de repousser les limites de la mémoire humaine et un témoignage du dévouement et de la concentration nécessaires pour réaliser un exploit aussi extraordinaire. Sommes-nous nés bons en mathématiques? C'est la plus grande question dans l'esprit de presque tout le monde. Oui, il suffit de vous challenger et de vous sortir de votre zone de confort, ainsi petit à petit vous trouverez des techniques et des méthodes à améliorer. Quand on tombe sur un barrage routier, il suffit de prendre un autre chemin. Aujourd'hui, il y a des réponses à ces questions, et elles sont très claires. Oui, tout est possible et c'est juste une question d'entraînement volontaire à partir d'un âge approprié. Il est important de comprendre que se former ou s'engager dans une profession n'est vraiment pas suffisant, et des études montrent que les médecins qui font les mêmes 20 ans ont de bien meilleures gueules qu'un nouveau médecin. Le temps ne nous donne rien sans rétroaction et amélioration constante du résultat. La compréhension la plus importante de toutes dans l'éducation, la plus grande importance est la quantité de temps investi et non le talent. Temps d'investissement tiré plus grand que capacité tiré plus grand que grande production tiré plus grand que capacité. Il y a deux conditions importantes pour développer la capacité. Plus l'âge est jeune, le temps d'investissement affecte la capacité de manière plus significative, et le temps d'investissement doit être réinjecté dans succès, c'est-à-dire comprendre quand il y a succès ou échec sinon notre cerveau ne sait pas comment améliorer ses capacités. Exemple, il n'y a pas trop de personnes qui sont très efficaces dans les tâches et dans la résolution de problèmes, la raison en est généralement qu'elles sont venues d'un certain manque et pendant de nombreuses années, elles s'exercent à simplifier et à trouver une solution le plus rapidement possible, elles ne sont pas toujours conscientes de cela. Apprendre de la pratique et non d'une formule, se concentrer, réagir et corriger c'est la meilleure façon pour notre cerveau d'apprendre, donc dans tous les systèmes éducatifs, il est important de mettre l'accent sur la pratique, même la pratique sans théorie du tout. C'est comme ça que j'ai étudié la physique au Technion, j'ai vu que je ne comprenais rien dans les cours, donc je n'allais qu'aux exercices, c'était un peu difficile au début mais en pratiquant j'ai commencé à comprendre. Nous nous engageons dans une pratique délibérée, notre cerveau subit des changements importants. En nous concentrant sur des compétences spécifiques et en consacrant du temps et des efforts à leur amélioration, nous modifions la structure de notre cerveau, ce qui nous permet d'être plus habiles dans les tâches choisies. De transmission d'informations, sont renforcées. Plus ces connexions, ou synapses, se développent, plus le cerveau devient efficace dans le traitement et l'exécution des tâches liées à la compétence pratiquée. Être concentré à 100% sur les objectifs est important dans l'entraînement ciblé pour être pleinement concentré pendant l'entraînement et non à moitié. La meilleure façon d'y parvenir est d'avoir un sommeil sain et une combinaison de sport. Fixez-vous des objectifs d'amélioration et ressentez des progrès. Le meilleur moment est après s'être levé à heure fixe car rien ne vous empêche d'étudier et de vous entraîner et l'entraînement devient une routine pour vous. Nous avons du plaisir pour une raison évolutive à partir de choses qui sont routinières, il nous est très facile de les faire par rapport à la première fois où nous avons dû les faire. Dans chaque période de mes études ainsi que pendant la période de création de mes entreprises, je commençais toujours peu de temps après m'être levé à une heure fixe et généralement jusqu'à environ une heure pour une telle session. Des études ont montré que c'est le meilleur moment pour s'y concentrer. Et bien sûr, il est important de se lever sans réveil avec un réveil naturel, c'est ainsi que votre corps se réveille hormonalement. Des études ont montré que plus les gens dorment, mieux ils progressent, la logique soutient également cela. Je vous épargne ces études, cherchez-les ou faites-moi confiance, mon temps était toujours prévu pour l'apprentissage ou la formation, comme ça il n'y avait pas de surprise et il y avait une routine. La pensée libre est une pensée non conventionnelle, mais le temps est agréable qui fonctionne normalement, du moins pour moi. Vous faites des progrès et ensuite vous vous coincez, ce ne sont pas des gènes. Dans la plupart des professions et capacités, vous faites d'abord les progrès les plus rapides, puis vous vous coincez. Essayez de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour vous, où est le problème? Essayez de sortir de votre zone de confort et de résoudre le problème d'une manière différente, c'est une formation précisément ciblée. Cela peut être dans le domaine du logiciel, du chant, de la course à pied ou l'écriture. La plupart des gens sont bloqués à un moment donné, mais un très petit groupe de personnes n'abandonne pas et trouve des moyens d'avancer. Être dans ce petit groupe, ce n'est pas des gènes, c'est une façon de travailler. Parfois, un nouveau guide peut vous aider après avoir reçu tout ce que vous pouviez du guide précédent, activer de nouvelles zones du cerveau et des tâches qui ne leur sont pas destinées en fonction de la tâche pratiquée. Différentes parties du cerveau deviennent plus actives lors d'une pratique délibérée. Par exemple, la pratique d'un instrument de musique active le cortex moteur, responsable du contrôle du mouvement, et le cortex auditif, responsable du traitement du son. Au fur et à mesure que ces zones cérébrales deviennent plus actives, elles se développent et se renforcent également, contribuant à l'amélioration des performances. La preuve du fonctionnement des zones du cerveau pour des tâches qui ne leur sont pas vraiment destinées est observée chez les aveugles qui s'entraînent à voir avec leurs mains. Les aveugles se fient à leur sens du toucher pour lire le braille, un système de points en relief représentant des lettres et des chiffres. Lorsqu'ils perdent la vue, leur cerveau s'adapte pour traiter l'information différemment, en utilisant différentes parties du cerveau pour comprendre le braille. Chez les personnes voyantes, le cortex visuel est la partie du cerveau responsable du traitement de l'information visuelle. Cependant, le cerveau des personnes aveugles réaffecte le cortex visuel pour traiter les informations tactiles à la place. Lorsque les personnes aveugles lisent le braille, leur cortex visuel devient actif, les aidant à interpréter les points en relief par le toucher. Le cortex somatosensoriel est la partie du cerveau qui traite les informations sensorielles du toucher et du corps du corps. Chez les personnes aveugles, le cortex somatosensoriel devient plus sensible et réactif aux stimulations tactiles, telles que la sensation de points braille. Cette activation améliorée les aide à lire le braille avec plus de précision et d'efficacité. Les personnes aveugles montrent souvent une connectivité accrue entre différentes zones du cerveau, telles que le cortex somatosensoriel, le cortex visuel et les zones de traitement du langage. Cette meilleure communication entre les zones cérébrales leur permet de traiter et de comprendre efficacement le braille grâce à leur sens du toucher. La capacité du cerveau à s'adapter et à se réorganiser, connue sous le nom de neuroplasticité, joue un rôle crucial dans la capacité des personnes aveugles à lire le braille. Lorsqu'ils perdent la vue, leur cerveau subit des modifications importantes, ce qui leur permet de traiter plus efficacement les informations tactiles et de les utiliser pour des tâches telles que la lecture en braille. Le cerveau est plus flexible avec l'âge. Tout type d'entraînement a son âge idéal pour le commencer. Il est important de commencer les mathématiques, la musique, la lecture et les sports dès le plus jeune âge pour garder ses capacités d'apprentissage ouvertes. Avec moi, par exemple, parce que je n'ai pas lu depuis que je suis jeune, j'ai du mal à articuler et à bien écrire, comme vous l'avez remarqué ici sur le site. On pensait autrefois que Mozart était un génie car il jouait à l'âge de 4 ans, aujourd'hui YouTube regorge d'enfants de ce genre. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à s'adapter et à se réorganiser tout au long de notre vie. Une pratique ciblée améliore la neuroplasticité, permettant au cerveau de former de nouvelles connexions et voies neuronales lorsque nous apprenons de nouvelles compétences ou affinons celles qui existent déjà. Cela se voit bien dans la capacité à jouer du piano. Jouer du piano est une compétence complexe qui nécessite une coordination entre l'esprit et le corps. La capacité du cerveau à s'adapter et à apprendre de nouvelles compétences, connue sous le nom de neuroplasticité, joue un rôle crucial dans la maîtrise du piano. Explorons comment la plasticité cérébrale change avec l'âge et son effet sur l'apprentissage du piano. Pendant l'enfance et l'adolescence, le cerveau est très plastique, ce qui signifie qu'il peut facilement former de nouvelles connexions et s'adapter à de nouvelles expériences. C'est le moment idéal pour apprendre à jouer du piano, car le cerveau peut développer rapidement les connexions neuronales nécessaires pour jouer de l'instrument. Les jeunes trouvent souvent plus facile d'apprendre à lire de la musique, à mémoriser des chansons et à développer leur motricité fine pour le jeu. À l'âge adulte, la plasticité du cerveau diminue par rapport à l'enfance. Cependant, les adultes sont toujours capables d'apprendre à jouer du piano et de subir des changements cérébraux associés à la neuroplasticité. Les adultes peuvent avoir besoin de consacrer plus de temps et d'efforts à la pratique, mais ils peuvent toujours développer les connexions neuronales nécessaires pour maîtriser le piano. De plus, les adultes peuvent bénéficier d'une concentration, d'une discipline et d'une compréhension accrue de concepts complexes. En vieillissant, la plasticité du cerveau diminue encore plus et l'apprentissage de nouvelles compétences comme jouer du piano peut devenir plus difficile. Cependant, il est toujours possible pour les personnes âgées d'apprendre à jouer du piano et de profiter des avantages de la neuroplasticité. Une pratique régulière peut aider à maintenir la fonction cognitive et même à ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Il est essentiel que les personnes âgées soient patientes et cohérentes avec leur pratique afin de progresser. Mémoire à court terme versus à long terme dans l'entraînement délibéré. Nous voulons travailler sur la mémoire à long terme. Elle se souvient des schémas et a du mal à se souvenir des séquences sans signification. J'ai remarqué ça à l'école, quand je devais mémoriser des poèmes ou des vers du Tanard, j'avais vraiment du mal parce que ce n'était pas un domaine dans lequel j'ai plongé, dans lequel je me suis entraîné. Le premier livre que j'ai lu c'était à l'âge de 20 ans, The Firm de John Grisham, mais j'ai toujours mémorisé les formules des tests de calcul sans aucune difficulté. C'est entré dans ma mémoire à long terme. L'entraînement intentionnel alimente essentiellement notre mémoire à long terme dans des situations toutes faites et des réponses souhaitées. Nos cerveaux sont câblés pour reconnaître des modèles et établir des liens entre des éléments d'information connexes. Cette capacité à se souvenir des séquences logiques et des corrélations est souvent plus efficace que d'essayer de se souvenir d'éléments aléatoires et sans rapport. Les joueurs d'échecs sont un excellent exemple de la façon dont notre cerveau excelle à mémoriser des schémas et des séquences significatifs. Les joueurs d'échecs professionnels diffèrent des joueurs ordinaires dans les milliers d'états de leur puissance dans la mémoire à long terme. Dans l'expérience, ils ont vu qu'ils se souvenaient beaucoup mieux des positions du plateau que les joueurs réguliers, mais lorsque le plateau est disposé au hasard, ils se souviennent des plateaux comme des joueurs réguliers. Cela montre exactement comment la pratique délibérée fonctionne sur la mémoire à long terme. Les échecs sont un jeu complexe qui oblige les joueurs à élaborer des stratégies et à planifier leurs mouvements à l'avance. Les joueurs d'échecs de haut niveau démontrent une incroyable capacité à se souvenir des séquences de mouvements et de leurs résultats. Leur cerveau est exceptionnellement apte à reconnaître les schémas et à établir des corrélations entre la disposition des pièces sur l'échiquier et les stratégies réussies. Les joueurs d'échecs étudient souvent des parties historiques et apprennent des mouvements d'ouverture courants, appelés « ouvertures », pour obtenir un avantage sur leurs adversaires. Ces ouvertures incluent des séquences de mouvements qui se sont avérées efficaces dans les jeux précédents. En apprenant et en reconnaissant ces schémas, les joueurs peuvent rapidement ajuster leur stratégie pour contrer les mouvements de l'adversaire. L'une des raisons pour lesquelles les joueurs d'échecs peuvent se souvenir plus facilement de ces séquences est qu'ils « partagent » des informations. La segmentation est un processus cognitif dans lequel nous regroupons des informations liées entre elles, ce qui les rend plus faciles à mémoriser. Les joueurs d'échecs peuvent se souvenir de positions complexes sur l'échiquier car ils regroupent des pièces liées en une seule unité mentale ou « morceau ». Cela facilite la mémorisation de séquences complètes de mouvements au lieu de positions aléatoires de pièces individuelles. Au fur et à mesure que les joueurs d'échecs acquièrent de l'expérience et de l'expertise, leur capacité à reconnaître et à mémoriser des schémas et des séquences significatifs s'améliore. Ils développent une vaste bibliothèque mentale de positions et de stratégies familières auxquelles ils peuvent rapidement accéder et appliquer pendant une partie. Cette connaissance leur permet de se concentrer sur la réflexion stratégique à un niveau supérieur au lieu d'essayer de se souvenir des mouvements individuels. Quelle est la formation qui a conduit au talent ? La différence de capacité à la fin est la capacité de se concentrer pendant longtemps, et de faire des tentatives qui n'ont pas encore été faites, et cette formation même enseigne la créativité. La capacité à se concentrer longtemps n'est pas innée, c'est une capacité acquise. À un moment donné de la chronologie, lorsque la capacité s'améliore, nous ressentons du plaisir. Les musiciens professionnels aiment beaucoup jouer, tout comme les grands danseurs. Les parents et les enseignants doivent donner à l'enfant ou à l'élève confiance en soi et reconnaissance, de sorte que dans les situations difficiles, l'enfant n'abandonne pas. Après tout, les moments difficiles arrivent toujours. Souvent, la personne qui excellait dans quelque chose a simplement trouvé une méthode d'étude intelligente et rien de plus. Quand vous voyez Messi, demandez-vous toujours quel est le talent ? Quelle est la formation qui a conduit au talent ? Leslo montre que nous sommes tous nés égaux et je sais que je suis bon en mathématiques en ce moment et je sais que cela m'a conduit à beaucoup de succès dans la vie, l'enseignement technique, la pensée logique, des décisions, voire le mariage. C'est pourquoi il était important pour moi que ma fille ait aussi cette liberté que j'ai. J'ai essayé de comprendre ce qui fait que les gens réussissent à apprendre parce que je pense que je ne suis pas « bon en maths de naissance », et je suis tombé sur l'histoire suivante. Il était une fois, dans une petite ville étrange de Hongrie, vivait une personne extraordinaire famille, les Fulgars. La famille était composée d'un père nommé Laszlo, de sa femme Clara et de leurs trois filles, Zuzsa, Suzanne, Zazofia, Sofia, et Yehudi. Leszlo Folger était un psychologue de l'éducation qui croyait fermement que « les génies sont faits, pas nés ». Il a eu une idée révolutionnaire, élever ses filles comme des prodiges des échecs pour prouver qu'avec un bon environnement et un travail acharné, n'importe qui peut exceller dans un domaine donné. Leszlo a commencé à enseigner les échecs à ses filles à un très jeune âge. Suzanne, l'aînée, a commencé à jouer alors qu'elle n'avait que 4 ans, tandis que Sofia et Yehudi la suivaient. Les filles ont été scolarisées à la maison par leurs parents, avec un fort accent sur les échecs et d'autres activités intellectuelles. Laszlo et Clara ont créé un environnement stimulant pour leurs filles, leur fournissant des milliers de livres sur divers sujets, ainsi que d'innombrables puzzles d'échecs et jeux d'échecs pour apprendre. Les sœurs Polgar ont pratiqué avec diligence, consacrant des heures chaque jour à perfectionner leurs compétences sur les échecs. Conseil. Leur travail acharné a commencé à porter ses fruits, et bientôt ils ont commencé à faire des vagues dans le monde des échecs. Suzanne, l'aînée, est devenue la première femme à décrocher une maîtrise internationale à l'âge de 12 ans. Elle est devenue championne du monde d'échecs féminin en 1996 et a détenu le titre pendant 4 ans. Suzanne a également été la première femme à remporter le titre de grand maître en atteignant les normes et le classement requis. Sophia, la sœur cadette, était tout aussi talentueuse. Bien qu'elle n'ait pas poursuivi les échecs aussi fortement que ses sœurs, elle a remarquablement réussi. Sophia a remporté le titre international Women's Master et remporté plusieurs tournois, dont l'Open de New York en 1989, où elle a remporté plusieurs multi-masters. Mais c'est la plus jeune sœur, Judith, qui continuera à battre tous les records et toutes les attentes. À l'âge de 15 ans, elle était devenue le plus jeune grand maître international de l'histoire, battant le record de longue date de Bobby Fischer. Judith était non seulement la joueuse d'échecs la plus forte de tous les temps, mais elle a également régulièrement concouru et vaincu les meilleurs joueurs d'échecs. Elle a atteint un classement record du monde de N8 en 2005, le classement le plus élevé jamais atteint par une femme. L'histoire des sœurs Polgar témoigne de la croyance de leur père dans le pouvoir du travail acharné et de la détermination. En se consacrant au jeu d'échecs et à la poursuite du savoir, les sœurs ont non seulement fait tomber les barrières dans le monde des échecs dominé par les hommes, mais ont également inspiré des générations de jeunes filles à poursuivre leurs rêves et à défier le statu quo. L'expérience de la famille Polgar est devenue un succès indéniable, prouvant qu'avec le bon environnement, le dévouement et la passion, n'importe qui peut atteindre la grandeur. Et ainsi, la légende des sœurs Polgar perdure, un brillant exemple de la puissance du potentiel humain. Certains diront que tout comme il existe une distinction entre les humains et les singes, les humains eux-mêmes sont intrinsèquement différents en termes de circonstances de leur naissance. Ce qui implique que nous ne naissons pas égaux. Cependant, la réalité est que nous naissons avec un degré relatif d'égalité, sans compétences ni capacités initiales. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous développons différentes compétences dans de nombreux domaines, qui sont considérablement influencés par des facteurs tels que la nutrition, la parentalité, le stress mental, un environnement favorable, les amis, les études, les parents enclins aux études et d'innombrables autres aspects. Bien que la structure du cerveau à la naissance puisse être différente, son influence est négligeable par rapport aux facteurs environnementaux, sans aucune anomalie génétique. D'un point de vue génétique, l'aspect le plus important est le caractère d'une personne, qui peut déterminer les zones qui nous attirent et par conséquent les compétences que nous développons en leur sein. Par exemple, j'ai personnellement une aversion pour la mémorisation, ce qui m'a amené à lutter et à hésiter dans les disciplines humanistes. En conséquence, ma maîtrise des domaines qui nécessitent une forte maîtrise du langage et de l'expression, comme celui démontré ici, est en bref un gâchis de formulation. Et d'ailleurs, j'ai vu ma fille développer son « talent » seulement avec des heures de formation, de nombreuses heures. Au début, j'ai vu des capacités normales et avec la minuterie, j'ai vu se développer un talent vraiment surnaturel. Et c'est comme ça que j'étais aussi. Ce n'est qu'à partir de la 7e que j'ai commencé à investir plus que les autres en maths parce que mon père n'arrêtait pas de dire qu'il avait 100 ans. Pas de compétition saine, zéro talent. Pas de feedback, pas d'apprentissage. Un jour je jouais au poker à la table Blas & Gross, je me suis dit qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour gagner de l'argent à la table, je suis seulement là pour apprendre sur les nouvelles méthodes et les comportements des gens. J'ai fait des mouvements justes pour tester des théories, comme parier trop ou trop peu, harceler les gens avec des relances répétées, ne pas regarder du tout mes cartes et jouer sur les réactions que je vois des gens et leur taille de pari. Cela a développé de belles capacités en moi, tout comme une personne aveugle renforce le sens du toucher. Ce petit changement m'a fait progresser dans le jeu comme jamais auparavant. Je suis toujours venu avec l'attitude, aujourd'hui, je veux gagner. L'importance des commentaires mesurables et quantitatifs, de la correction des erreurs et de l'apprentissage continu dans le développement humain ne peut être surestimé. Le processus consiste simplement en une formation puis une rétroaction puis une correction puis une formation puis une rétroaction, ainsi de suite, cela pourrait être des milliers d'itérations ou quelques-unes. Ce processus itératif est essentiel pour la croissance et l'amélioration de divers aspects de la vie, y compris les domaines personnels, professionnels et comportementaux. Les commentaires et la correction des erreurs ultérieures sont nécessaires pour que les gens puissent se développer et exceller dans un domaine ou une activité donnée. Dans tout ce que vous faites, il est important de recevoir des commentaires, Disons que vous créez un site web pour vendre de la pommade anti-calvitie. Il n'y a pas enseignant qui vous donnera de vrais commentaires. Vous devez créer les commentaires en calculant quotidiennement le nombre d'achats, le nombre d'entrées sur le site et combien cela vous a coûté. Alors vous avez quelque chose avec quoi travailler. Le coût par acheteur sur le site, ainsi que le nombre d'acheteurs, sont de bons retours quantitatifs. Dans certaines professions ou activités, comme le skate, les retours sont facilement évidents. Par exemple, si un skateur n'exécute pas correctement un tour, il peut immédiatement distinguer sa performance en fonction du résultat. Cette rétroaction claire leur permet d'ajuster leur technique et de réessayer, ce qui conduit finalement à une amélioration. Cependant, il y a des domaines où la rétroaction peut ne pas être aussi simple, comme le poker. Dans ce cas, un joueur peut prendre une décision stratégiquement correcte qui entraînera une perte en raison de l'élément de chance. Par conséquent, il peut être difficile de déterminer quels aspects de leur jeu doivent être améliorés. Inculquer le besoin de rétroaction et apporter des corrections aux enfants est essentiel à leur croissance et à leur développement. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne, il a besoin de rétroaction pour apprendre, non seulement pour ses études, mais aussi pour son comportement et ses aptitudes sociales. En apprenant aux enfants à être réactifs au feedback et prêts à s'adapter, nous leur donnons les outils nécessaires à une amélioration continue tout au long de leur vie. Idéalement, le système éducatif devrait fonctionner sur la base de ce principe de feedback et de correction, et permettre une amélioration continue pour les élèves de tout niveau. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le système ne parvient souvent pas à fournir une rétroaction cohérente et significative, en particulier lorsque les élèves progressent dans les classes supérieures et poursuivent des études spéciales. Dans un système éducatif qui fonctionne bien, les élèves recevront une rétroaction continue, ce qui leur permet d'identifier les domaines de faiblesse et d'améliorer leurs compétences. Par conséquent, un bon exercice pour que les étudiants apprennent à créer un mécanisme avec des commentaires quantitatifs est une semaine de conférences. Chaque jour, les étudiants montent et parlent pendant 5 minutes sur un certain sujet, obtiennent des notes et des commentaires du reste de la classe et le lendemain tout le monde corrige et remonte, de sorte qu'après une semaine, vous devriez voir et surveiller les notes. Chaque jour, l'enfant voit une note pondérée de la classe et des commentaires et le lendemain devrait s'améliorer. C'est exactement un mécanisme d'amélioration qui est bon dans n'importe quel domaine de la vie. De plus, les éducateurs et les administrateurs surveillent les progrès des élèves pour identifier les lacunes potentielles dans le programme ou les méthodes d'enseignement et apporter les ajustements nécessaires. En adoptant une approche axée sur la rétroaction, le système éducatif peut mieux servir les élèves en favorisant l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie et la capacité de s'adapter aux nouveaux défis. Les systèmes d'intelligence artificielle, IA, similaires à la manière heureuse dont les humains apprennent, reposent également sur la rétroaction et correction pour améliorer leur performance. Ceci est souvent réalisé grâce à un processus appelé « formation », où les modèles d'intelligence artificielle sont alimentés en données et reçoivent des commentaires sur leur sortie. Voici quelques exemples. Apprentissage supervisé. Dans ce type d'apprentissage automatique, un modèle d'IA est fourni avec des données étiquetées, paires d'entrée-sortie, et apprend à faire des prédictions ou des décisions en fonction des commentaires qu'il reçoit pendant la formation. Exemple, un modèle d'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images reçoit un ensemble d'images étiquetées, où il apprend à reconnaître les objets dans les images en fonction des étiquettes correctes qui lui sont fournies. Apprentissage par renforcement. Dans cette approche, un agent d'intelligence artificielle apprend en interagissant avec son environnement et recevoir des commentaires sous forme de récompense ou de punition en fonction de ses actions. Exemple, un système d'IA pour un jeu d'échecs reçoit des commentaires sous la forme de parties gagnantes ou perdantes, ce qui lui permet d'ajuster sa stratégie et de s'améliorer au fil du temps. Un livre qui explique parfaitement cela est Anders Ericsson Speak. Et il devrait être orienté vers l'étudiant. Point. Un enseignant a besoin d'un « pou » et il a été embauché. Le problème n'est pas budgétaire, il n'est que de gestion. Moins d'enseignants et plus d'argent. Les bons enseignants amènent de bons enseignants et les maintiennent également dans le système, nous recherchons tous de bonnes personnes autour de nous. Lorsque les responsables de l'éducation viennent du domaine analytique, l'éducation saute d'un niveau. Prenons par exemple le physicien qui améliore les méthodes d'enseignement de la physique. Carl Wieman est un physicien et chercheur en éducation renommé qui a consacré une partie importante de sa carrière à l'évolution de l'enseignement de la physique. En tant que lauréat du prix Nobel de physique, 2001, Wieman est non seulement un scientifique accompli, mais également un ardent défenseur de l'amélioration de la manière dont la physique est enseignée dans les écoles et les universités. Ses recherches portent sur les pratiques d'enseignement fondées sur des données probantes et l'application de techniques d'apprentissage actif pour améliorer la compréhension des concepts de physique par les élèves. Les recherches de Wehmann sur l'enseignement de la physique ont conduit à plusieurs conclusions et recommandations clés. L'un des principaux principes de son travail est l'importance de s'éloigner des méthodes d'enseignement traditionnelles basées sur des cours magistraux, qui échouent souvent à engager les étudiants et à promouvoir une compréhension approfondie. Au lieu de cela, Wehmann préconise l'utilisation de stratégies d'apprentissage actives qui encouragent les élèves à penser de manière critique, à résoudre des problèmes et à appliquer leurs connaissances dans des contextes réels. Pour y parvenir, Wehmann a développé et promu l'utilisation de techniques d'enseignement interactives, telles que le tutorat par les pairs, qui est un modèle de réflexion incontournable pour les écoles. Laisser les élèves des classes supérieures enseigner aux classes inférieures, ainsi que des activités de groupe pour résoudre des problèmes. Ces méthodes visent à impliquer plus efficacement les étudiants dans le processus d'apprentissage et à favoriser une compréhension plus approfondie des concepts de physique. De plus, ils contribuent à créer un environnement d'apprentissage plus inclusif, car les étudiants d'horizons divers peuvent activement participer et contribuer au processus d'apprentissage. La recherche de Wehmann a également souligné l'importance de construire des modèles mentaux chez les étudiants en enseignement de la physique. Pour construire des modèles, le « LEM » est important, pas l'information. En fournissant des commentaires en temps réel et des opportunités aux élèves de réfléchir à leur apprentissage, les enseignants peuvent soutenir la croissance de leurs élèves et aborder les idées fausses avant qu'elles ne s'enracinent, les aidant à construire une représentation mentale de la physique ainsi qu'un apprentissage progressif à partir de problèmes de plus en plus complexes. Dans les écoles d'aujourd'hui, on ne comprend pas l'importance des modèles mentaux des élèves et les conditions de seuil pour leur construction, petits problèmes, rétroaction rapide, sentiment de réussite, inspiration du monde réel, difficultés croissantes et éloignement constant du confort. En plus de ses recherches sur les stratégies d'enseignement, Wehmann était un défenseur de l'utilisation de la technologie éducative dans la salle de classe. Il a développé et soutenu l'utilisation de simulations informatiques, connues sous le nom de simulations interactives FET, pour aider les étudiants à visualiser et à explorer les concepts de physique. Ces simulations permettent aux élèves de manipuler des variables et d'observer les effets, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie des principes de base. Un titre pour la section la plus importante ici. Il s'avère que chez les enfants, le tempérament et l'écoute affectent le vocabulaire. Cela signifie essentiellement que le caractère de l'enfant affecte la capacité à travers l'entraînement et non à travers un jardin de vocabulaire. Dans le jeu, les joueurs avec le QI élevé ont un avantage au début mais seulement au début. Après c'est juste l'entraînement heure, pensez-y un instant, c'est intéressant, car cela signifie pour le travail d'employé l'employé qui a le plus envie d'apprendre et non l'employé qui a le plus de connaissances. Je récite souvent cela à mes enfants et je les confronte. Leur réponse dit généralement « Mais comment puis-je être un basketteur professionnel quand je suis petit ?» Et ensuite je leur réponds « La taille n'est pas une capacité, c'est un attribut physique. » Si un enfant a ce modèle en tête, il fera des efforts et progressera dans tous les domaines, des maths à la danse en passant par le foot ou le quiz du lion. C'est un modèle qui aide à réussir dans d'autres domaines. S'il était possible d'être excellent dans le domaine, alors les meilleurs jeunes joueurs de tennis finiraient toujours par être au sommet du monde, et ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas dire des jeunes joueurs qui seront un joueur de tennis de classe mondiale. Tom Brady, l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, a été choisi au numéro 199 sur 254 dans le repêchage, ce qui signifie qu'il n'était pas l'un des meilleurs avec la capacité la plus élevée. Au fil des années et de l'entraînement délibéré, il a atteint le sommet. Il a passé toute sa vie à s'entraîner et à améliorer ses capacités, il a fait des entraînements ciblés avec des retours sur chaque match, je suis sûr que les autres ne s'en approchent pas. Il a également amélioré son alimentation ainsi que toute sa vie. Tom Brady est connu pour son régime alimentaire strict, sa routine de sommeil et ses choix de mode de vie, qui, selon lui, ont contribué à sa longévité et à son succès dans la NFL. Brady a adopté une approche holistique pour maintenir sa santé et ses performances, qui comprend une combinaison de nutrition, de sommeil et d'entraînement physique approprié. Voici quelques aspects clés de son régime. Sommeil. Brady insiste sur l'importance d'un sommeil adéquat et de qualité pour favoriser la récupération et la santé globale. Il vise généralement au moins 8 à 9 heures de sommeil chaque nuit et maintient un horaire de sommeil régulier. Exercice et récupération. Brady suit un programme d'entraînement personnalisé axé sur la force fonctionnelle, la flexibilité et la mobilité. Il intègre des bandes de résistance, des exercices de flexibilité et du yoga dans sa routine. Brady donne également la priorité aux méthodes de récupération, telles que le massage, le roulement de mousse et la cryothérapie, pour réduire l'inflammation et les douleurs musculaires. Mode de vie. En plus de son régime alimentaire et de sa routine de remise en forme, Brady maintient un style de vie discipliné qui soutient sa carrière. Cela comprend, limiter la consommation d'alcool et de caféine, réduire l'exposition aux toxines environnementales et privilégier le temps passé avec la famille et les amis pour le bien-être émotionnel. En suivant un régime strict, une routine de sommeil et des choix de mode de vie, Tom Brady a pu maintenir un élevé niveau de performance tout au long de sa longue carrière, défiant les attentes pour un quart arrière de la NFL à son âge. Mais il y a un gros mais ici, ce qui est critique n'est pas la durée de l'entraînement car de nombreux joueurs de poker vont se casser la tête avec des pertes pour un même s'ils jouent toute la journée. Ils ne se construisent pas de nouveaux modèles mentaux pour le jeu, ils ne corrigent pas les erreurs et reçoivent des commentaires. Bien sûr, ce n'est pas seulement pour le poker, ce sont les meilleures capacités au monde, 95% ne font pas d'entraînement délibéré et sont donc bloqués. Imaginez un monde où tout le monde sait ce qu'est l'entraînement intentionnel, j'espère que vous faites maintenant partie de cela si vous avez réussi à survivre jusqu'ici. Souvent, vous devez prendre un entraîneur pour vous aider avec une formation ciblée et après avoir tout appris de lui, prenez un nouvel enseignant ou entraîneur. Les dividendes sont bons, l'éducation est la meilleure mesure pour l'avenir du pays et de la famille. Le seul endroit où un investissement de 1 shekel peut rapporter 100 shekels avec des dividendes. L'éducation donne aux humains ce qu'ils désirent depuis des milliers d'années, la liberté. Mais ici, il s'agit de la liberté de penser et avec l'aide de la liberté de penser, il est facile d'atteindre la liberté physique. Être libre dans notre pays, dit l'hymne. Les valeurs sont construites quand on comprend comment elles améliorent la vie. Une partie essentielle de l'éducation est la gestion, vous pouvez lire à ce sujet ici, gestion et investissement avec la libre pensée. L'éducation pour les étudiants juifs du Tanakh est importante pour la transmission des valeurs même aux étudiants complètement hérétiques. L'éducation juive nous unit en tant que peuple dans un état juif. L'esprit de l'aigle prône la liberté et la gentillesse et la modestie, valeurs qu'il est important que tout le monde assimile. Les bons professeurs amènent les bons professeurs. Dans tous les systèmes qui ont des gens, il y a une règle qui est généralement valable. Les excellents enseignants amènent d'excellents enseignants et les enseignants médiocres amènent des enseignants médiocres et en dessous. Aujourd'hui, dans le système éducatif en Israël, la médiocrité et les niveaux inférieurs se sont répandus et cela s'infiltre bien sûr de la direction du ministère de l'éducation sur le terrain. Comment Meir Arzayon est-il produit? Les gens grandissent dans des foyers où le cadre de règles est fixé. Il y a des hypothèses et généralement vous ne posez pas trop de questions, mais acceptez la réalité. C'est la nourriture que vous mangez, c'est ainsi que les maisons devraient être, ce sont les bonnes professions et ainsi de suite. La plupart des enfants ne grandissent pas non plus de manière indépendante, c'est-à-dire qu'ils entrent dans une réalité existante et dans un cadre de règles fixes. Ces choses privent en fait les enfants de la formation nécessaire pour être des pionniers. Le combattant audacieux, Meir Arzayon, dit que lorsqu'il était enfant, il marchait littéralement dans tout le pays et partait en voyage seul. Il pratiquait l'indépendance et enfreignait les règles, il n'est donc pas étonnant qu'il était unique et spécial, il n'était pas né comme ça, il s'y est entraîné sans le savoir. En plus d'être un pionnier, il faut être une personne qui lit des livres, je n'ai pas rencontré de visionnaire qui n'était pas un bouquiniste. Herzl, Ben Gurion, Begin, Golda, Franklin, Jabotinsky, Elon Musk, Einstein, Jefferson étaient tous des gens du livre. Je ne dis pas que c'est la bonne voie, j'essaie d'expliquer pourquoi il y a si peu de leaders, d'entrepreneurs et de PDG avec une vision et des percées. Les leaders doivent également être charismatiques et avoir la chance et la capacité de marketing pour atteindre le sommet. Mais tout cela ne suffit pas, il manque quelque chose d'autre, généralement vous avez aussi besoin d'une enfance difficile, une enfance qui vous fait rêver, rêver d'un avenir différent, puis vous vous entraînez à imaginer un avenir différent. Décent et honnête et puis vous vous retrouvez seul, solitaire. Toutes ces choses vont s'arranger et avoir lieu, nous arrivons à la conclusion que ce sont vraiment des gens seuls mais ils existent et ils sont en nous, nous devons chercher leur étincelle en libre pensée et profiter d'eux. Ainsi, la prochaine fois que votre enfant voudra construire une maison sur un arbre ou creuser un tunnel vers la maison du voisin, laissez-le. Deuxième intelligence, améliorer la pensée elle-même. Le calcul est comme une deuxième intelligence. Le calcul nous aide à construire des modèles corrects de la réalité. Sans formation mathématique du cerveau pendant l'enfance, il est impossible de construire des modèles mentaux appropriés à l'âge adulte. Il est donc important d'enseigner aux enfants les mathématiques, calculs, dès le plus jeune âge dans tous les établissements d'enseignement et il est encore plus important qu'ils pratiquent à la maison. Alors que nous améliorons avec complaisance la pensée elle-même, nous trichons en fait toutes nos capacités à un niveau, du calcul du coût d'un bonbon avec la TVA au lancement du ballon de basket dans le panier, ce calcul multiplie la puissance folle. Monde à travers des informations et des modèles pour prendre de bien meilleures décisions en combinaison avec le sens. Pas en me convainquant que j'ai raison, mais en tournant la roue plusieurs fois et en mesurant les résultats. Il est important de définir les problèmes avec douceur mais de les résoudre puissamment. Un exemple de modèle mental. Lorsque je gratte un billet de loterie, mes chances de gagner ne changent pas si quelqu'un d'autre a pris un billet avant moi. Le modèle derrière cette affirmation? Il n'y a pas de changement dans la probabilité de gagner ou de perdre si je tire une carte ou une autre. Les matières sur lesquelles il faut mettre l'accent sont celles qui améliorent la réflexion et la prise de décision, l'arithmétique, une langue seconde, la lecture théorique, y compris les journaux, et la physique. En savoir plus sur les avantages des, une deuxième langue ici. Langue seconde troisième intelligence. Des études montrent que les locuteurs de deux langues obtiennent de meilleures notes au test des intelligences. Bien sûr, obtenir une intelligence plus simple à partir d'une deuxième langue est un gros gain avec peu d'effort, exactement ce que nous recherchons, du moins je le recherche. Deux options en même temps. Une deuxième langue nous fait beaucoup réfléchir plus librement et hors des sentiers battus sur un sujet, car le cerveau s'habitue à toujours utiliser deux options pour chaque langue concernée. Diverses études ont montré qu'une deuxième langue améliore notre façon de penser. Il est intéressant de noter que les immigrés ont généralement une deuxième langue, ce qui contribue probablement à leur réussite, en particulier dans les pays offrant l'égalité des chances comme les États-Unis. L'anglais ou toute autre langue, de préférence l'anglais, est en fait un multiplicateur car il améliore l'ensemble de notre réflexion et pas seulement sur un sujet spécifique comme nous mémorisons quelque chose de l'histoire qui n'améliore pas notre réflexion elle-même. Et comme un langage pour tout, il améliore également notre pensée même. L'ordinateur est comme un deuxième cerveau pour nous, surtout si nous savons développer des logiciels ou utiliser Google Sheets, pour les anciens d'entre nous Excel, correctement et de bien sûr, l'utilisation correcte de la recherche et du ChatGPT ajoute beaucoup à notre capacité de réflexion et de déchiffrement. Il est important d'enseigner aux enfants comment les utiliser correctement pour élever l'intelligence de l'enfant dans le partage de la machine. La porte d'entrée du monde de la connaissance est l'anglais, la majeure partie de la littérature professionnelle dans le monde est rédigée en anglais. Chaque matière étudiée au niveau de la maîtrise est presque entièrement en anglais. C'est pourquoi il y a un énorme avantage pour ceux qui parlent persan et il vaut mieux que ce soit l'anglais bien sûr. Pour la pensée libre, nous avons besoin de connaissances, et la plupart des connaissances dans le monde sont en anglais. La plupart des livres les plus importants que j'ai lus sont en anglais. Des mots qui ne sont pas dans votre langue maternelle elle, une des raisons pour lesquelles une deuxième langue améliore la pensée même est que nous obtenons des mots qui ne sont pas du tout dans notre langue principale, puis cela donne une nouvelle façon de penser. Disons que l'hébreu n'a pas vraiment les mots « minimum » et « maximum » lors de l'apprentissage de l'anglais, cela ajoute en fait de nombreuses nouvelles formes de pensée à notre boîte à réflexion, cela améliore la pensée elle-même. De plus, dans un langage de programmation, il y a de nouveaux mots qui augmentaient encore plus la boîte à outils, comme si alors où j égale 100 ce qui signifie mettre une valeur dans la variable, nous encadrons un mot pour une idée dans le cerveau, puis retirons ce cadre dans tout processus de pensée qui en a besoin. Aux États-Unis, chez les enfants âgés de 4 à 17 ans, il est passé de 7,8% en 2003 à 9,5% en 2007, puis à 11% en 2011 à 2012. Cela indique une augmentation constante des taux de diagnostic du TDAH au fil des ans. La chose la plus évidente est que les enfants sont constamment testés pour toutes sortes de troubles et qu'ils étaient moins souvent testés. La deuxième chose est le régime alimentaire que de nombreux enfants recevoir qui les amène à se comporter étrangement. La nutrition est connue pour affecter notre état d'esprit et en particulier les enfants. Je vois mes enfants quand ils sont exubérants et malheureux, je demande à ma femme si l'on mangeait du sucre, et la réponse est généralement oui. Vous n'avez pas besoin d'études ici, des études ont montré que certains aliments et régimes alimentaires peuvent être associés au TDAH, trouble déficitaire de l'attention, et à d'autres problèmes de comportement ou de santé mentale chez les enfants. Additifs alimentaires et colorants artificiels. Certaines études ont indiqué un lien potentiel entre les additifs alimentaires, les colorants artificiels et les symptômes du TDAH chez les enfants. Une méta-analyse publiée en 2012 dans la revue Pediatrics a rapporté une association faible mais significative entre le colorant alimentaire artificiel et l'augmentation des symptômes du TDAH chez les enfants. Des exemples de tels additifs comprennent le benzoate de sodium et les colorants artificiels tels que le rouge 40 et le jaune 5. Cependant, tous les enfants atteints de TDAH ne sont pas sensibles à ces additifs, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir une relation causale précise. La consommation a été liée à une variété de problèmes de santé, y compris l'obésité, le diabète de type 2 et les problèmes dentaires. Certaines études ont également montré un lien potentiel entre une consommation élevée de sucre et les symptômes du TDAH ou d'autres problèmes de comportement chez les enfants. Une étude publiée en 2011 dans le Journal of Attention Disorders a trouvé un lien positif entre une consommation élevée de sucre et les symptômes du TDAH. Cependant, le lien entre le sucre et le TDAH n'est pas encore entièrement compris et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Certains régimes alimentaires, tels que le régime alimentaire occidental, qui contient des aliments transformés, des sucres raffinés et des graisses non animales, ont été associés à une moins bonne santé mentale. Résultats chez les enfants. À l'inverse, une alimentation plus saine, comme le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres, a été associée à une meilleure santé mentale. Une étude publiée en 2017 dans The Lancet Psychiatry a révélé que les interventions nutritionnelles peuvent améliorer les résultats de santé mentale, y compris les symptômes du TDAH, chez les enfants. Carences nutritionnelles. Certaines études ont indiqué que les carences en nutriments spécifiques, tels que les acides gras oméga-3, le fer, le zinc, le magnésium et la vitamine D peuvent être associés aux symptômes du TDAH et à d'autres problèmes comportementaux ou mentaux chez les enfants. Par exemple, une étude de 2005 publiée dans le Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology a révélé que la supplémentation en acides gras oméga-3 peut améliorer les symptômes du TDAH chez les enfants. Cependant, il est important de noter que les suppléments nutritionnels doivent être effectués sous la supervision d'un professionnel de la santé, car une consommation excessive de certains nutriments peut également entraîner des effets négatifs. Lisez ici ce qu'est la nutrition gratuite et pourquoi elle convient à l'homme. La chose la plus importante à l'époque moderne est que tout le monde se regarde principalement et c'est pourquoi l'éducation à la pudeur est si importante aujourd'hui. Mon âme est comme de la poussière pour n'importe qui, cela permet de penser sans ego et sans agrandissement de soi et c'est exactement ce qui aide à avancer dans la vie pour prendre des décisions basées sur des données et une logique sans ego. Garçon et fille. Séparation entre garçon et fille dans de vraies matières dans les premières années. Des études montrent que la séparation entre garçon et fille dans les premières années de scolarité augmente les chances de réussite des filles en raison des différences entre filles et garçons. Amener les gens à agir en cercle, difficulté ou douleur plus grand qu'un autre regard et étude du processus plus grand que progrès, et non en cercle, difficulté ou douleur plus grand que blâmer le monde pour les problèmes plus grands que désespoir et inaction. Les personnes qui opèrent dans le premier cercle, environ 10% des personnes, sont celles qui réussissent le mieux, mais la correction par l'éducation est possible et même facile. L'éducation pour l'amélioration, essayer d'améliorer tout ce qui est possible et aller de l'avant donne du sens. L'amélioration passe par la capacité d'entendre les critiques, d'y répondre positivement et de corriger l'opinion en conséquence. La bonne façon. Ces compétences, qui ne s'acquièrent pas sans études, changeront la face de la société si la majorité décide d'agir selon la logique. Pour enseigner tous les préjugés avec lesquels nous sommes nés, comme confirmer ce que nous savons, ne pas accepter de nouveaux faits qui contredisent les opinions existantes, ne pas prendre de décisions sous pression mentale car elles sont basées sur l'émotion, et de plus en plus. De l'intérêt, intérêt composé, c'est une loi universelle qui s'applique non seulement aux investissements, l'une des merveilles du monde et dans l'éducation l'une des lois les plus critiques. Lorsque vous investissez ce que vous avez appris, dit Anu, l'intérêt est de retour dans la vie, l'augmentation des capacités est énorme. Un exemple tiré de l'économie, un investissement de 10 000 NIS pendant 25 ans à 10% d'intérêt annuel rapportera 110 000 NIS. C'est 11 fois l'argent. Un exemple dans une carrière, lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour en lisant, ou de toute autre manière, il existe d'innombrables options d'apprentissage qui reposent sur les nouvelles connaissances que nous avons acquises. Celui qui n'apprend pas restera toujours là où il s'est arrêté. Point. C'est essentiellement l'intérêt d'apprendre qui peut générer d'énormes profits. Réinvestissez ce que vous avez appris pour améliorer vos capacités, C'est ce que font les gens intelligents et qui réussissent. Apprendre en vidéo parce que vous ne voulez pas être un perroquet. Ces dernières années, une tendance claire s'est développée pour changer fondamentalement le rôle de l'enseignant. Ce changement s'exprime dans la direction de l'enseignant d'être un guide pour les étudiants et moins un conférencier qui lit à partir d'un syllabus et d'essais préécrits en utilisant la méthode MAM. L'enseignant se tient debout et enseigne. Des méthodes telles qu'une « classe inversée » peuvent être vues dans lesquelles les étudiants apprennent le matériel de transmission, l'étape dans laquelle ils absorbent les connaissances, sous forme de devoirs filmés, écrits et ne viennent ensuite en classe et exécutent l'étape de pratique et de discussion. Plusieurs autres méthodes se sont développées, dont la pédagogie par projet, PBL, qui s'est développée au lycée high-tech et l'association Attide Plus que j'ai fondée en 2013 avec mes associés Daniel Kubler. Nous avons mis en place le programme « Ferme technologique » dans l'association où les étudiants ont appris les matériaux avec l'aide de petits groupes de recherche qui travaillent ensemble pour résoudre un problème dans la ferme agricole et inventent un prototype avec l'aide de mentors et à la fin ils sont entrés le concours national pour l'entrepreneuriat des jeunes dans les domaines de l'agrotech et a remporté les 3 premières places 3 années de suite avec une augmentation significative de centaines de pourcents du montant accès à 4 à 5 crédits en mathématiques et à des majeurs scientifiques étendus. Le changement était si notable qu'en 2013, dans le village de jeunes de Kenaton, seuls 2 élèves ont terminé 4 à 5 unités de mathématiques et 3 ans plus tard, il y a eu une augmentation de près de 1000%. Nous avons réalisé qu'avec l'aide de la modélisation positive, ainsi que le leadership d'excellents éducateurs et coordonnateurs de terrain tels que Coral Beaton, qui est devenu plus tard le PDG de l'association, il est possible de créer un changement fondamental et une profondeur dans les études scientifiques qui sont pas « lire » aux enfants mais se fait réellement sur le terrain et motiver les étudiants à atteindre les majeurs scientifiques élargis aux côtés d'excellents instructeurs j'ai des capacités pédagogiques élevées et de petits groupes d'apprentissage. Pour permettre à un étudiant d'être enseignant, il est possible pour étudier avec l'entraîneur de l'équipe nationale américaine qui a utilisé la méthode dans une école de mathématiques qu'il a ouverte. Attide Plus, avec l'idée de produire VBL, apprentissage basé sur la vidéo ou en hébreu, apprentissage basé sur la vidéo. Je suis venu dans cette direction parce que je pensais que si j'étais enseignant, je ne voudrais pas répéter les plans de cours tout le temps comme un perroquet. Je voudrais investir mon temps dans une éducation significative, en aidant la modélisation faible et positive dans laquelle j'aide ceux qui ont vraiment du mal à pratiquer aux côtés de ceux de la classe qui peuvent courir à un rythme supérieur au leur de manière indépendante. Bien récompensé dans le projet pilote. Le pilote s'est poursuivi intensivement en 2022 avec des enseignants réguliers dans 8 écoles qui n'ont pas reçu de compensation significative, dans le but de tester si le projet est durable à l'échelle nationale. Les enseignants du projet pilote prolongé ont montré une faible motivation et une incapacité à investir du temps, ce qui a conduit à la conclusion que pour réussir à l'échelle nationale, le ministère de l'Éducation devrait investir dans la production de vidéos de qualité dans toutes les matières de base avec les meilleurs. Les enseignants en Israël produisent ainsi de véritables « stars » aux côtés des élèves et des technologies d'apprentissage autour de la vidéo qui créent une expérience interactive. Aujourd'hui, cela se produit principalement dans YSchool et d'autres sites web individuels d'entreprises privées. À notre avis, pour que le projet réussisse, le ministère de l'Éducation devrait lancer un appel d'offres aux entreprises privées. L'appel d'offres étant réparti entre plusieurs sociétés de production et non contrôlé par une seule société sur le marché, telle qu'une société de change. Tout cela accompagné d'une récompense supplémentaire pour les productions réussies avec un score objectif qui s'efforce d'avoir des outils de mesure qui répondent aux normes de la libre pensée. De cette façon, vous n'êtes pas obligé d'embaucher uniquement des professeurs professionnels, mais vous pouvez également embaucher des étudiants et des étudiants de classe supérieure qui ne pratiqueront que la classe, tout comme dans l'académie où les praticiens sont étudiants. Un enseignant professionnel sera toujours en charge de la classe, mais son temps sera libéré pour tout regarder d'en haut et s'occuper des plus faibles. À mon avis, cette méthode ne devrait être utilisée qu'à partir de la 4e car les élèves plus jeunes doivent avoir un enseignant en phase 2 et travailler sur la persévérance et la capacité d'auto-apprentissage. Une nouvelle école pour tester la faisabilité de Coral Beaton, le PDG de l'association, est en train de créer avec l'éducateur Théodore Landau une nouvelle école appelée « Chaos », qui créera un chaos positif dans l'éducation et sera le premier du genre en Israël, pour les jeunes de la périphérie sociale et économique qui aspirent à être indépendants et excellents. L'école assure un accompagnement et une continuité dès la 9e année dans des conditions académiques et d'internat, en passant par le service dans l'armée jusqu'à la sortie de l'armée et même dans les études académiques et l'emploi après l'armée. L'école sera complètement différente des écoles qui existent aujourd'hui, plus comme une académie qu'une école, avec des cours au choix et un accent sur les matières de base, mathématiques et anglais, une école bilingue aux côtés d'un lien fort avec des entreprises de haute technologie et avancer l'industrie dans le domaine. Coral, je pense que la distinction s'impose entre apprentissage, acquisition de connaissances et éducation. Un processus d'apprentissage non basé sur le lieu et l'enseignant, il peut être fait n'importe quand, n'importe où et pas nécessairement avec un enseignant physique dans la classe. Un processus éducatif significatif nécessite un modelage positif, l'instillation d'habitudes et de compétences, un changement de conscience, nécessite une figure significative, qu'il s'agisse d'un enseignant ou de toute autre figure mature physiquement présente, une relation interpersonnelle qui se noue. L'école doit combiner les deux, entre la création d'un maximum d'individualité et d'efficacité dans les processus d'apprentissage, et la création d'espaces d'action significatifs avec des personnages matures, un enseignant ou un camarade ou toute autre figure qui accompagne les stagiaires. Tant l'enseignant que l'élève ne veulent pas être des perroquets. Le professeur, on a déjà compris pourquoi, l'élève ne veut pas seulement mémoriser toute la journée. La majeure partie de l'apprentissage traditionnel à ce jour est basée sur la vision de l'étudiant comme un conteneur, qui ne reçoit que d'une manière unilatérale en supposant que la base de la connaissance est l'enseignant. La réalité d'aujourd'hui montre déjà le contraire. Nous devons briser la dépendance à l'égard de l'enseignant en tant que base de la connaissance et développer autant d'apprenants indépendants que possible, l'apprentissage vidéo comme nom de code pour tout apprentissage indépendant qui n'est pas basé sur un enseignant. Lire un livre, écouter une conférence enregistrée depuis l'étranger, rechercher des informations seul, apprendre par le jeu, etc. Manière phénoménale dès l'âge de 3 ans à Haïdar, et l'enseignement public laïque a beaucoup à apprendre d'eux. Une méthode pour apprendre des méthodes d'apprentissage et une approche des solutions, l'intelligence est souvent confondue avec une méthode ou une approche des problèmes. L'ordre et l'organisation contribuent à la compréhension du problème qui se pose à nous, quelle que soit l'intelligence de celui qui résout le problème. En développement logiciel, les meilleurs développeurs sont ceux qui abordent les problèmes qui se posent à eux de manière générique avec une certaine approche lorsque leur environnement de travail est modélisé et qu'ils ne sont pas forcément les développeurs les plus intelligents de l'organisation. C'est pourquoi il est essentiel dans les écoles d'enseigner une approche correcte aux différents types de problèmes et cela inclut bien sûr l'ordre, la compréhension du problème en profondeur, l'organisation des informations, etc. Le programme Jump Math de John Mitton est basé sur la conviction que n'importe qui peut exceller en mathématiques si on leur donne le bon environnement d'apprentissage et les bonnes ressources. Cette approche innovante de l'enseignement des mathématiques a fait l'objet de diverses études visant à évaluer son efficacité. Une étude menée par le Dr John Pollock de l'Université de Toronto a été conçue pour évaluer l'efficacité du programme Jump Math dans l'amélioration des performances en mathématiques des élèves. L'étude a porté sur des élèves de la 3e à la 6e année et a comparé leurs résultats en mathématiques avant et après leur participation au programme Jump Math. Les résultats ont montré que les élèves qui ont participé au programme ont amélioré considérablement leur performance en mathématiques, avec une augmentation moyenne de 2,4 notes en une seule année. Une autre étude menée par des chercheurs de l'Université de Western Ontario et de l'Université Wilfrid Laurier a examiné l'impact du Jump Math programme sur les connaissances mathématiques et la confiance en soi des élèves. L'étude a révélé que les étudiants qui ont participé au programme ont non seulement démontré une amélioration de leur performance en mathématiques, mais également une confiance en eux accrue dans leur capacité en mathématiques. Dans un essai contrôlé randomisé de 2016, des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine ont étudié l'impact du Jump Math programme sur le rendement en mathématiques des élèves de la première à la cinquième année. Point. Les résultats ont indiqué que les élèves du groupe Jump Math avaient de meilleurs résultats que leurs pairs. Dans le groupe témoin, ce qui indique que le programme est efficace pour améliorer les compétences en mathématiques des élèves. Ces études fournissent des preuves que le programme Jump Math peut entraîner des améliorations significatives des performances en mathématiques et de la confiance en soi des élèves. En décomposant les problèmes complexes en étapes gérables, en fournissant une évaluation et une rétroaction continue et en renforçant la confiance par le succès, l'approche Jump Math permet aux élèves de développer une base solide en mathématiques et de surmonter les obstacles courants associés à l'anxiété liée aux mathématiques. Le succès du programme Jump Math soutient l'idée qu'avec les outils et les conseils appropriés, n'importe qui peut apprendre et exceller en mathématiques. Partie 10, la famille transmet des valeurs et un exemple personnel, et une mauvaise éducation à la maison est difficile à réparer. C'est pourquoi c'est important. L'éducation à l'optimisme et à la pensée positive, pour faire des choses grandes et importantes, vous devez rêver, et pour réaliser des rêves, vous devez être optimiste. il est recommandé de lire Florige de Martin Seligman. À la fin de chaque journée, vous demanderez « Qu'est-ce qui était bien aujourd'hui ?» Partie 10, dans chaque être humain, il y a une partie 10 qui combat le changement et le progrès avec diverses excuses. Apprenez à votre enfant à lutter contre sa partie 10 et à s'améliorer constamment, à aller de l'avant et à changer d'avis lorsque les circonstances changent. Les gens qui parlent de gens qui parlent d'idéal gens se divisent généralement en deux types, le type qui aime parler d'idées et d'opinions et l'autre type qui aime parler des gens et du shopping. Je suis du premier type, j'ai toujours été plus intéressé par les processus et les idées qui me feraient avancer que d'entendre ce que les autres faisaient ou achetaient pour eux-mêmes. Cela vaut la peine de vous éduquer, vous et votre enfant, à ne pas vous soucier de ce que les autres ont ou n'ont pas, mais plutôt de la façon dont ils sont arrivés là où ils sont arrivés, comment étudier et à quoi passer le temps. Il est plus intéressant de savoir comment Elon Musk, par exemple, est arrivé là où il est que combien d'argent il a gagné hier. D'ailleurs Elon Musk, l'une des choses qui devrait vous intéresser est qu'il a lu des centaines de livres théoriques depuis qu'il était un enfant, et c'est l'un des principaux facteurs de réussite. Le deuxième facteur est probablement la rareté qui s'est développée. Il a pris le C'est une bonne place. Apprendre par soi-même et en autodidacte, la plupart des domaines dans lesquels nous atteignons un haut niveau comme la composition, le football, les logiciels, les mathématiques, la peinture, la photographie, la menuiserie, etc. On apprend par soi-même par volonté de progresser et par curiosité. Il y a une étape où si l'enfant n'apprend pas par lui-même, il ne pourra pas le passer. Généralement ce désir existe chez les enfants qui viennent d'une sorte de privation, il est donc important d'exposer les enfants à de nouvelles choses et les guider dans une première direction et leur laisser le reste. L'analytique apporte-t-elle la moralité? Selon la libre pensée, oui, car elle développe la logique. La raison construit la morale dans l'enfance, car la conscience est en réalité le désir de ne pas faire de mal à autrui. C'est ainsi que les enfants construisent leur conscience et leur moralité dès leur plus jeune âge. L'analytique aide en fait l'enfant à quantifier, mais pas seulement des nombres mais aussi des idées abstraites. Faire le premier pas est important pour éduquer à rechercher le contact avec l'action et non pour planifier et planifier. L'éducation a pensé que changer la réalité est possible si nous agissons. Un homme a demandé chaque jour pendant des semaines de gagner à la loterie, sinon il ferait faillite. Chaque jour, il venait et demandait à gagner à la loterie. Le dernier jour, il a vraiment supplié, « Je dois gagner à la loterie, pourquoi ne me laisses-tu pas gagner ?» Puis il entendit une voix. « Pas de problème, mais il faut d'abord acheter un billet. » Pour lutter contre la jalousie, pour ne se comparer qu'à soi-même du passé et non aux autres qui seront toujours plus intelligents, plus beaux, plus drôles ou plus riches. Vous ne convoiterez pas. Il est important d'éduquer exactement le contraire de ce que les réseaux sociaux éduquent, c'est-à-dire de regarder constamment les autres, au contraire, regardez-vous et vous vous améliorerez. Les actions valent mille mots. Un exemple personnel dans chaque aspect de la vie où vous voulez enseigner la manière d'agir, comme le désir d'accepter la critique. La modestie à travers un exemple personnel. Le minimalisme à travers un exemple personnel. N'achetez pas mille choses. Seulement ce qui est nécessaire. Lecture en famille, il est plus facile d'enseigner la lecture lorsque tout le monde lit en même temps. Les livres de non-fiction et les biographies sont meilleurs. Les actions et les paroles sont égales pour montrer par des exemples personnels et des explications que la parole a du pouvoir et que nous devons faire ce que nous disons et dire ce que nous faisons. Par exemple, dans notre maison, si ma femme ou moi promettons quelque chose aux enfants, cela sera toujours être réalisé, un mot est un mot, mais nous attendons la même chose des enfants. Un exemple dans les actions, pas dans les mots. Apprenez à donner et à recevoir des commentaires honnêtes. L'un des problèmes des gens est qu'ils n'acceptent pas les critiques et les considèrent comme une blessure personnelle. J'aime vraiment demander aux gens et aux amis leur opinion sur de nombreux sujets, et je rencontre souvent la peur de me critiquer. Après tout, c'est pour ça que je demande, recevoir des critiques, c'est la seule façon de m'améliorer, surtout en affaires. J'ai pensé au non plus 500 lors d'un voyage en Inde lorsque mon partenaire et ami Gal était avec moi. Bien sûr, je lui ai demandé dans les escaliers que pensez-vous du nom? Il m'a dit, super nom, je le connais et s'il pensait que c'était un mauvais nom, il disait juste, merde de nom. J'ai écrit le nom dans un café en Inde. Si quelqu'un dit quelque chose de mal à propos de votre idée, ce n'est pas sur vous. Si vous entrez en lui, vous n'entendrez plus de vraies critiques de sa part et c'est très mauvais pour vous. Une mauvaise critique d'une idée vous convient, donc si vous y réfléchissez librement et voyez qu'il a raison, vous économiserez beaucoup de travail inutile. Vos pensées et vos idées ont besoin de critiques honnêtes de la part de ceux qui vous entourent, sinon vous serez comme Saddam Hussein ou d'autres qui n'ont pas compris la réalité qui les entoure. Éduquez votre enfant de cette façon, à demander des critiques honnêtes et à donner des critiques honnêtes. La politesse apporte la beauté, l'éducation à la politesse, quand on pense à l'autre, d'énormes processus ont lieu même au niveau de l'État. Les petites choses affectent les grandes choses à la fin. Les pays les plus polis sont aussi les plus propres, Japon, pays nordiques et autres. La politesse apporte de bons produits et un beau pays. La courtoisie est souvent considérée comme une simple étiquette sociale, mais son impact va bien au-delà des plaisanteries et des bonnes manières. En fait, la politesse peut être une force motrice derrière le développement de grands produits et d'un beau pays. Voici quelques raisons. Plus collaboration et innovation. Courtoisie favorise un environnement positif et respectueux, encourageant les gens à travailler ensemble et à partager librement leurs idées. Cet esprit de coopération se traduit par des solutions innovantes et des produits de qualité qui répondent à un large éventail de besoins et de préférences. Plus satisfaction citoyenne. Les employés polis et courtois ont tendance à offrir un meilleur service à la clientèle, à comprendre et à anticiper les besoins de leurs clients. Cela conduit à une satisfaction et une fidélité accrue des clients et, en fin de compte, à une demande accrue de produits et de services. Plus attirer les talents et les investissements. Un environnement commercial poli et respectueux attire des professionnels et des investisseurs talentueux du monde entier. Ce flux de talents et d'investissements contribue au développement de produits, de services et d'infrastructures de pointe, et améliore en fin de compte la beauté et la prospérité globale du pays. Plus harmonie sociale. La politesse aide à créer une société harmonieuse où les gens sont plus susceptibles de se respecter et de se soutenir autre. Cette cohésion sociale permet aux communautés de travailler plus facilement ensemble pour améliorer leur environnement et préserver leur beauté naturelle. Plus conscience environnementale. Une société polie tend à valoriser le respect non seulement les uns pour les autres mais aussi pour l'environnement. Cette conscience collective encourage le développement de produits respectueux de l'environnement et de pratiques durables, qui contribuent à la beauté et au bien-être général du pays. Plus tourisme et réputation internationale. Une culture polie et accueillante attire les touristes, qui sont plus susceptibles de visiter et recommander un pays où ils se sentent respectés et appréciés. Cela renforce l'industrie du tourisme, qui à son tour soutient la préservation des sites du patrimoine naturel et culturel, et améliore la beauté du pays. Plus résolution des conflits. La politesse est un élément essentiel pour une communication efficace, qui aide à résoudre les conflits de manière plus amicale. Cela conduit à l'allocation des ressources et à une meilleure prise de décision, ce qui se traduit par le développement et l'entretien efficace des infrastructures et des espaces publics. La véritable indépendance est la liberté, ce qui semble être l'indépendance est davantage l'appropriation par l'enfant de son temps et de ses décisions. C'est différent de l'indépendance, c'est plus d'autonomie sur le monde de l'enfant, lui faire confiance car ils sentent exactement quand on leur fait confiance. Le terme « employé des enfants » n'est pas reconnu par les tribus, car les enfants ont leur propre temps et agenda. La définition la plus correcte est la liberté, de donner la liberté, pas de contrôler tout comme personne n'aime être contrôlé. C'est ainsi que j'ai grandi, je contrôle mon temps et je suis intéressé et occupé par ce que je veux. Il fut un temps où j'avais 4 ans que je ne voulais pas aller à la maternelle, ma mère a accepté et je ne suis pas allé à la maternelle pendant plusieurs mois. Trouver un domaine où l'on veut accomplir quelque chose de grand et de noble, ce indique qu'il s'agit d'un terrain adapté aux parents ou aux enfants. La liberté pour les enfants conduit finalement au travail d'équipe car ils perçoivent à un certain stade qu'ils doivent travailler en équipe pour faire quelque chose de grand et réussir. C'est ainsi que les humains se sont également développés. La force des Homo sapiens et la coopération, c'est donc une qualité essentielle pour développer chez les enfants malgré les définitions qui sont placées entre les maisons aujourd'hui, un phénomène qui n'existait pas en Israël mais qui se développe rapidement. J'ai grandi dans une maison qui a enseigné l'indépendance depuis que nous étions petits. Les parents étaient au travail. Mon père Yakov, ingénieur électricien du Technion, a travaillé à Raphaël pendant de nombreuses années et est rentré à la maison après 10 heures du soir et ma mère Naomi, a travaillé comme assistante sociale au service de l'enfant, revenait en l'après-midi. Nous nous préparions à manger, voyagions seuls en bus pour nous rendre en cours et faisions essentiellement ce que nous voulions. Vous ne vous plaignez pas et ne vous plaignez pas parce que tout est de votre responsabilité et que vous ne voulez pas compliquer la tâche des parents. Il y avait des bagarres tous les jours à la maison pour tout, des barres de chocolat à la télévision. Ça m'a appris à me débrouiller tout seul pour la nourriture, l'argent, les ennemis. C'est comme ça qu'on était parfois entre frères. Nous n'avons jamais eu à signaler où nous étions et quand nous revenions. il y avait une liberté totale et un soutien que nous pouvions faire n'importe quoi. Je me souviens que mon père disait toujours, « La famille Gonen n'a peur de rien. » Cela résonne encore en moi, et je le répète aussi tout le temps à mes enfants, « La famille Gonen n'a peur de rien. » Indépendance est de laisser un enfant sortir seul et jouer avec des amis du quartier. Aux États-Unis, il n'y a pas cela et cela affecte le développement des enfants, c'est l'un des grands avantages en Israël. C'est une énorme différence si un enfant doit être conduit chez des amis ou si cela se produit seul. Veiller sur mes enfants quand nous n'essayons pas de contrôler leurs désirs, ils n'essaient pas de nous contrôler, ceux qui donnent la liberté obtiennent la liberté. L'indépendance d'un enfant doit également s'exprimer dans sa gestion seule de la colère et de la frustration. Cela peut être pratiqué et il est recommandé de donner à l'enfant une indépendance totale pour y faire face, pour l'amener à la motivation et non au désespoir. Sortir des difficultés et des privations, lorsque les enfants comprennent que les difficultés et les privations sont des obstacles à surmonter et non des murs à éviter. Vous pouvez passer, de bonnes choses se produisent. C'est pourquoi il est important de les laisser les gérer seuls et de s'assurer qu'ils ont de l'espoir. Un excellent article sur ce que la science a à dire sur le sujet. La difficulté peut aussi se manifester par une réticence à faire de petites tâches à la maison, mais il est important de commencer par de petites tâches. Ce qui a fonctionné le mieux dans notre maison, c'est de donner à chaque enfant un rôle dans le repas, un se détourne de la table et nettoie la cuisine, un fait la vaisselle et le troisième petit se détourne juste de la table. Chaque semaine, les rôles changent. Au début, ils se plaignent, mais après environ une semaine, c'est tout à fait naturel pour eux. On ne termine pas les tâches avec des mots gentils et on ne fait pas le tour mais droit au but, mettre l'assiette dans l'évier. Une des choses qui m'a aidé à sortir des difficultés, c'est que j'ai toujours vu au-delà du problème immédiat, j'ai vu l'horizon. De plus, mes parents ont toujours sous-estimé l'ampleur des défis et des problèmes, quelque chose du genre, je sais que c'est difficile, mais tu y arriveras à coup sûr. Il est important d'aider les enfants, mais seulement lorsqu'ils ont vraiment besoin d'aide, sinon il vaut mieux les laisser essayer par eux-mêmes. Dans la tribu Yokotan, lorsque les enfants apprennent à marcher, les mères se placent derrière l'enfant et il sent qu'il marche tout seul. Comparé aux parents occidentaux qui se tiennent devant l'enfant et lui tiennent la main, on peut comprendre beaucoup de choses à cela, on ne peut pas réussir sans échec. Parler des échecs et pourquoi ils se sont produits. C'est bien d'échouer mais oui pour comprendre où est l'erreur et ne pas la répéter. Accomplir les tâches ménagères enseigne l'indépendance et la gratitude. Dénoncer sinon ils ne sauraient pas divulguer. Les enfants acquerront la plupart des connaissances et des capacités par eux-mêmes, la beauté est de commencer le processus. Le caractère de l'enfant finira par l'amener à se concentrer sur un sujet et à en rejeter un autre. Par exemple, ouvrez un compte bancaire pour un enfant et montrez-lui comment déposer de l'argent et comment acheter une action. Je me souviens que mon père m'a acheté un Commodore pour la première fois afin que je puisse voir comment fonctionnait le nouvel ordinateur personnel. Laissez le symptôme résoudre le problème et non le symptôme. C'est essentiellement l'essence de la libre pensée. Jeff Bezos, qui a construit l'entreprise qui a changé la façon dont les gens achètent, a prononcé cette phrase puissante, « Vous ne résolvez pas le symptôme, vous résolvez le problème qui a causé le symptôme, et c'est le secret du succès d'Amazon au cours des 20 dernières années. » Midi 33 sur ce YouTube. Ce qui est important que les parents naturellement, les enfants veulent être indépendants. Maison, projet, affaires, santé. Nos désirs deviennent désordonnés ou se dégradent avec le temps, c'est pourquoi nous devons constamment investir de l'énergie pour les aménager. L'éducation pour commander et ne pas accepter le désordre est essentielle dès le plus jeune âge. La gentillesse est transmise à la génération suivante, il est important de le montrer avec un exemple personnel. Les enfants copient ce qu'ils voient et grandiront avec ce qu'ils ont vu, c'est ainsi que la nature nous a créés. L'éducation à la lecture ou aux mathématiques est comme l'intérêt composé. Vous investissez les connaissances antérieures dans des connaissances supplémentaires et le retour est inimaginable. La difficulté, la rareté et leur traitement sont bons pour forger le caractère fort et désir d'amélioration. La maternelle, l'éducation à la maternelle est une base essentielle pour l'apprentissage et le développement des enfants. Ces premiers environnements éducatifs soutiennent non seulement les familles en renforçant leurs efforts éducatifs, mais il est important qu'ils favorisent l'amour de la nature et une appréciation du monde qui nous entoure. Grâce à des activités de renforcement du caractère, les enfants apprennent l'importance de l'autodiscipline, ainsi que la différence entre les objectifs à court et à long terme. De plus, l'éducation à la maternelle instille un sentiment de patriotisme et d'amour pour son pays, tout en enseignant des compétences sociales essentielles, telles que la politesse, l'empathie et la coopération efficace au sein d'une équipe. En faisant la promotion de bonnes habitudes alimentaires, les jeunes apprenants sont encouragés à faire des choix sains qui contribuent à leur bien-être général. Les activités de lecture quotidienne à la maternelle aident les enfants à développer des compétences en littératie et à cultiver l'amour des livres. De plus, ces cadres éducatifs mettent l'accent sur la valeur du minimalisme et du contentement, et enseignent aux enfants à apprécier la simplicité et à trouver le bonheur dans moins. Enfin, les jardins d'enfants offrent aux enfants la possibilité d'apprendre les nombres, les divisions et l'arithmétique simple, jetant ainsi les bases de leurs compétences analytiques et de leur réussite future en mathématiques. Les gens aiment le plus être avec des amis. Ce que les enfants aiment le plus, c'est jouer avec les enfants. C'est très simple. Cela est dû à des centaines de milliers d'années d'évolution, quand ils vivaient en tribu et devaient prendre soin les uns des autres en tant qu'adultes, la formation pour cela s'est produite chez les enfants. La nature nous a construit un mécanisme qui nous récompense lorsque nous sommes avec des amis. Même les adultes, il est plus naturel pour eux d'être en compagnie d'amis proches. Dans la société moderne, vous voyez un ami au mieux 4 heures par semaine, dans notre passé, nous voyons des tribus 8 heures par jour avec des membres de la tribu et plus encore. C'est l'une des raisons pour lesquelles les tribus non touchées par la modernisation sont plus heureuses que l'homme moderne. Certaines études ont montré que les membres des sociétés tribales peuvent avoir des niveaux relativement élevés de bonheur et de bien-être. Par exemple, des études sur le peuple Hadza en Tanzanie et le peuple Tsimane en Bolivie ont montré qu'ils éprouvent des niveaux élevés de satisfaction et de bien-être à l'égard de la vie. Des facteurs tels que des liens sociaux forts, un travail qui a du sens et un lien profond avec la nature sont considérés comme contribuant à leur bonheur, un point qui n'est pas pris en compte dans la construction moderne pleine de murs ainsi que dans les nouveaux quartiers. Le système éducatif n'y répond pas non plus de manière adéquate. Une des choses est de laisser les plus grands enseigner aux plus jeunes, c'est tout à fait possible mais pas fait dans les écoles. Une université fait follement la promotion de la société, le lieu qui forme les ingénieurs et les dirigeants de l'économie. Des études de logiciels dans toutes les facultés aussi en littérature. Tous les cours en ligne obligent les universités à permettre à tous de rejoindre leurs études en ligne. Chaque faculté aura un cours de mathématiques. Intégration pratique dans l'industrie dans le cadre des études. Offrir des options pour intégrer de nouvelles entreprises issues des universités. Cours dans la prise de décision et l'évolution des opinions. Je ne sais pas écrire en hébreu et elle est, à mon avis, la meilleure enseignante du monde. Elle a enseigné dans la Silicon Valley à l'école de mon fils. Ma femme et moi sommes allés voir sa conférence. Après une minute, j'ai compris pourquoi elle est une enseignante légendaire dans la Silicon Valley avec des milliers d'étudiants qui l'adorent. Elle répond avec une confiance abyssale, avec un regard sage et on voit qu'elle a presque tout vu. En bout de ligne, elle a fait confiance à ses élèves et cela leur donne la force mentale de ne pas avoir peur d'apprendre. Pendant sa conférence, j'ai déjà acheté son livre sur Audible et ma femme a commandé le livre imprimé. Dans la conférence, Esther a écrit qu'il est très important d'éduquer les enfants à l'indépendance, à la confiance, à la gentillesse, à la coopération et au respect mutuel. L'indépendance signifie faire confiance aux enfants non pas comme si, mais vraiment, comme les laisser jouer à 6 ans, se lever seuls pour aller à l'école et prendre la responsabilité de leur journée. Il est recommandé de lire le livre de probablement la meilleure enseignante au monde, Esther Wojcicki dans l'une des conférences, les mères ont demandé, que faire si la fille mine veut aller à l'école avec des chaussures déchirées et ouvertes sans manger? Esther a souri et a répondu, est-ce que ça la dérange ou la met en danger? La mère a compris sans plus d'explication, laissez la fille partir comme ça. C'est son problème. Et c'est justement ça l'éducation à l'autonomie, laisser l'enfant assumer la responsabilité de ses actes tant que cela ne met pas sa vie en danger. Mesurer ce qui est possible. Mesurer ce qui est possible pour gagner est un cadre important. Des modèles de domaines complètement différents, et « Measure what is important » de John Doerr des premiers investisseurs de Google et d'autres sociétés. Le livre démontre comment en mesurant et en réalimentant, il est possible de s'améliorer constamment, par une méthode appelée OKR. OKR signifie « objectif et résultat clé ». Et c'est une méthode d'ingénieur qui va grandement améliorer le système éducatif quand tout est mesurable et avec des objectifs clairs et mesurables. Il s'agit d'un cadre d'établissement d'objectifs et de gestion du rendement qui aide les organisations et les individus à fixer des objectifs clairs et mesurables et à suivre les progrès vers leur réalisation. Les OKR se composent de deux éléments, objectifs, un objectif qualitatif clairement défini, ambitieux et inspirant. Résultats principaux. Un ensemble de résultats quantifiables et mesurables qui indiquent si l'objectif a été atteint. Exemple, Supposons qu'une entreprise souhaite améliorer la satisfaction de ses clients. Voici un exemple d'OKR pour cet objectif. Objectif ? Améliorer la satisfaction et la fidélité des clients. Principaux résultats ? Réduire le temps de réponse moyen du support client de 24 heures à 8 heures en 3 mois. Atteindre un taux de satisfaction de 90% dans les enquêtes de satisfaction des clients au cours de la 6 prochains mois. Objectif est qualitatif et inspirant, tandis que les résultats clés sont quantifiables et fournissent des objectifs spécifiques pour mesurer les progrès. Comment les enfants ont été élevés autrefois. Un autre livre hautement recommandé, Hunt-Gather Parents, montre comment les enfants ont été élevés dans les sociétés tribales. Il y a beaucoup de choses surprenantes là-bas qui ont disparu de la civilisation d'aujourd'hui. C'est un livre vraiment important car de nombreuses solutions pour une bonne éducation nous ont disparu avec la modernisation. Une des choses qui a changé ma perception est que les mères du passé étaient proches de leur bébé dans les premières années, couchaient avec lui, l'allaitaient et ne le laissaient pas pleurer du tout. Cela change complètement l'approche occidentale intuitive qui dit à élever un bébé dans une autre pièce, laisser le pleurer et éduquer le à être seul, à dormir seul dès son plus jeune âge. Dans la société tribale, il est proche de la mère toute la journée les premières années, allaite quand il veut. Histoire et conseils parentaux, présentant une approche alternative aux méthodes parentalité modernes. Le docteur Duclef examine les méthodes parentales traditionnelles utilisées par les sociétés de chasseurs-cueilleurs et partage des idées et des leçons importantes qui peuvent être appliquées à la parentalité dans le monde d'aujourd'hui. Dans le livre, le docteur Duclef parle de ses expériences de voyage avec sa jeune fille pour rencontrer et apprendre de familles autochtones dans différentes parties du monde, y compris les Mayas du Yucatan au Mexique, les Inuits dans l'Arctique canadien et les Hadza en Tanzanie. Elle examine leurs méthodes parentales et identifie les principes communs qui contribuent à élever des enfants coopératifs, résilients et heureux. Certains éléments importants de Hunt, Gather, parents, incluent l'importance du travail d'équipe. Encourager les enfants à contribuer activement aux tâches familiales et communautaires favorise coopération et un sentiment d'appartenance modèle de comportement. Les enfants apprennent mieux en observant et en imitant leurs parents et les autres membres de la communauté. Soutien émotionnel. Fournir un environnement stimulant qui valide les sentiments des enfants tout en leur apprenant à réguler leurs émotions contribue à leur bien-être émotionnel. Dans l'ensemble, Hunt, Gather, parents, défie les normes parentales occidentales conventionnelles et offre une approche alternative qui met l'accent sur la coopération. Intelligence émotionnelle et implication communautaire pour élever des enfants bien adaptés. Systèmes éducatifs réussis dans le monde. Un autre livre qui a aidé Cleverland secret derrière le succès des pouvoirs éducatifs dans le monde, par Lucie Créant. Il peut en fait servir d'outil de libre pensée pour copier le succès et s'améliorer, pour voir ce qui fonctionne dans les meilleurs systèmes éducatifs du monde et l'appliquer. Cleverland, est un livre de l'éducatrice et chercheuse Lucie Créant, qui étudie les systèmes éducatifs de 5 pays reconnus pour leur excellence académique. La Finlande, le Japon, Singapour, la Chine et le Canada. Créant combine ses expériences personnelles, des entretiens avec des enseignants, des parents et des élèves, et un examen complet de la recherche en éducation pour découvrir les principes clés derrière ces systèmes réussis. À une éducation de qualité, quel que soit leur milieu socio-économique, ceci est réalisé grâce à l'allocation de financement, un soutien social complet et des interventions pour les élèves en difficulté plus des enseignants de qualité. Ces pays investissent massivement dans le recrutement, la formation et le développement professionnel des enseignants. Ils veillent à ce que l'enseignement soit une profession respectée, attirent les meilleurs talents et leur fournissent les ressources et le soutien adéquat. Plus programmes adaptés. Les programmes de ces pays sont conçus pour être culturellement pertinents, fondés sur des données probantes et axés sur le développement des compétences de base. Les élèves sont encouragés à penser de manière critique, à résoudre des problèmes et à s'engager dans un apprentissage coopératif. Ils utilisent des évaluations standardisées pour suivre les progrès et tenir les écoles et les enseignants responsables des résultats des élèves. Plus équilibre entre autonomie et centralisation, il existe un équilibre entre donner aux écoles et aux enseignants l'autonomie dans leurs méthodes d'enseignement et leurs programmes, tout en maintenant un certain degré de centralisation pour garantir cohérence et qualité dans tout le système. Frames Everywhere, un autre livre important pour comprendre ce que fait réellement le système éducatif, aide les enfants à construire des modèles mentaux de la réalité qui les entoure, c'est-à-dire le cadrage. La pensée libre consiste essentiellement à transférer des modèles mentaux d'un domaine à un autre. J'ai fait cela lorsque j'ai fondé Plus 500, lorsque j'ai réalisé que le trading à court terme est aléatoire, il s'agit essentiellement de prendre un modèle mathématique général construit dans ma tête sur le trading à court terme. Autre exemple de transfert de ce modèle ici en libre pensée, quand on voit que les animaux dans la nature ne grossissent pas même s'ils ont parfois de la nourriture en grande quantité, le cadre mental est une nourriture sans fin, pas d'engraissement, un mécanisme de contrôle, en transférant le cadre aux humains de comprendre que le problème n'est pas la quantité d'obésité humaine. Le cadre peut être transféré aux humains parce que nous sommes aussi une sorte d'animal. Le livre, Frames, explore le pouvoir de la cognition humaine et sa capacité unique à construire des modèles mentaux ou frames. Le livre se penche sur la façon dont le cadrage affecte la prise de décision, la résolution de problèmes et l'innovation. Cela montre également comment l'utilisation appropriée des cadres peut nous aider à naviguer dans des problèmes complexes et à nous adapter à un monde en évolution rapide. En comprenant et en exploitant le pouvoir du cadrage, les individus et les entreprises peuvent améliorer leur capacité à relever les défis et à façonner un avenir meilleur. Le cadrage est un processus cognitif dans lequel les gens construisent des modèles mentaux ou cadres pour comprendre, interpréter et organiser les informations dans le monde qui les entoure. Ces cadres façonnent nos perspectives, influencent notre prise de décision et guident notre résolution de problèmes et notre communication. Le cadrage nous aide à donner un sens à des situations complexes, à hiérarchiser les problèmes et à naviguer dans la grande quantité d'informations que nous rencontrons chaque jour. Le cadrage peut être à la fois conscient et inconscient, et il reflète souvent nos expériences personnelles, nos antécédents culturels et nos biais cognitifs. La façon dont un problème ou une situation est formulée peut affecter de manière significative notre perception de celui-ci, ainsi que les solutions que nous envisageons et les actions que nous prenons. En étant conscient du fonctionnement du cadre et en ajustant nos cadres mentaux, nous pouvons améliorer notre capacité à aborder les défis et à prendre de meilleures décisions dans divers aspects de la vie. Pensée abstraite. La pensée abstraite est importante pour plusieurs raisons, notamment la résolution de problèmes, la créativité et l'adaptabilité. Point. Il permet aux gens de comprendre des concepts complexes, d'établir des liens entre des idées apparemment sans rapport et d'aborder des situations sous plusieurs angles. L'enseignement de la pensée abstraite aux enfants peut être facilité par diverses méthodes, telles que cultiver un état d'esprit de croissance, utiliser des analogies, participer à des conversations ouvertes, encourager la créativité, promouvoir la pensée critique et offrir des opportunités de réflexion. La résolution de problèmes est importante pour la pensée abstraite car elle permet aux gens pour décomposer des problèmes complexes en composants plus simples et trouver des liens entre différents éléments. Cette capacité cognitive aide les enfants à comprendre différents aspects d'un problème, à envisager différentes solutions et à développer des stratégies de solution. La pensée abstraite favorise la créativité en permettant aux enfants d'imaginer de nouvelles possibilités, de générer des idées originales et d'explorer des solutions non conventionnelles. Cette compétence facilite l'expression artistique, l'innovation et l'invention. Au fur et à mesure que les enfants développent des compétences de pensée abstraite, ils deviennent mieux équipés pour s'adapter à de nouvelles situations et à de nouveaux défis. Cette flexibilité cognitive est essentielle dans un monde en évolution rapide, car elle permet aux enfants d'apprendre et d'appliquer efficacement de nouvelles informations. Pour enseigner aux enfants la pensée abstraite, encourager les enfants à relever des défis et à voir l'échec comme une opportunité d'apprendre. En cultivant un état d'esprit de croissance, vous pouvez les aider à développer la résilience et la persévérance, qui sont essentielles à la pensée abstraite. Les analogies sont un outil puissant pour enseigner la pensée abstraite, car elles aident les enfants à établir des liens entre des concepts apparemment sans rapport. Utilisez des exemples quotidiens pour illustrer des idées complexes et encourager les enfants à trouver leurs propres analogies. Encouragez les enfants à exprimer ouvertement leurs pensées, leurs idées et leurs sentiments. Posez des questions ouvertes qui favorisent la pensée critique et stimulent la curiosité intellectuelle. Offrez aux enfants des occasions de s'engager dans des activités créatives telles que le dessin, l'écriture ou la construction. Cela les aidera à développer leur imagination et à sortir des sentiers battus. Apprenez aux enfants à analyser les informations, à évaluer les preuves et à remettre en question les hypothèses. Initiez-les à la pensée logique, aux arguments et au processus de prise de décision. Encouragez les enfants à réfléchir sur leurs expériences, leurs pensées et leurs sentiments. Cette conscience de soi peut les aider à identifier des schémas, à tirer des conclusions et à établir des liens entre différents aspects de leur vie. Le long terme l'emporte généralement sur le court terme. En choisissant le bon chemin entre la paresse et le long terme, il vaut mieux résister à la paresse et viser le long terme. Les humains ont tendance à penser au moment présent, en particulier à cause de l'évolution, Notre réalité était plus survivaliste, donc le court terme était plus important que le long terme, comme l'odeur du lion qui nécessitait une rapidité action directe à ce moment-là. Chez les enfants, le désir de divertissement à court terme est particulièrement perceptible. Des émissions, 2 heures, au film en passant par les séries de télé-réalité en passant par YouTube et TikTok, 15 secondes. La réflexion à long terme a un pouvoir particulier car vous pouvez atteindre des capacités et des réalisations lorsque vous ne pensez qu'à long terme, comme démarrer une entreprise qui nécessite plusieurs années de travail acharné et de réflexion à long terme, vous pouvez finalement acquérir des capacités et un capital qui n'auraient jamais été obtenus autrement. La plupart des gens ne pensent pas à long terme dans leur vie quotidienne, ce qui donne un gros avantage à ceux qui le font. La tendance est toujours d'interpréter ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier, mais en fait il est beaucoup plus sage de comprendre la tendance de plusieurs années et de ne pas se laisser emporter par les événements d'aujourd'hui ou d'hier. Par exemple, un gouvernement veut changer les tribunaux, il est préférable de l'interpréter sur plusieurs années, la détérioration de la qualité du gouvernement. Le « travail » est plus facile et vous gagnerez souvent à long terme. Vous voyez le désir de ne pas travailler dur dans une entreprise ou technologie. Une voiture au lieu de marcher, un plat chaud au lieu de préparer des aliments frais, une cuisinière à gaz au lieu d'un feu de camp, Amazon. Et c'est le point le plus critique. Vous voulez gagner ? Pratiquez la réflexion à long terme, puis commencez lentement à penser à long terme. Pratiquer la réflexion à long terme, est en fait rejeter la gratification dans de nombreux cas. Les relations sont plus dangereuses que de fumer. Contrairement au tigre qui vit seul, les humains, comme les érables, sont des créatures tribales qui ont besoin de compagnie pour survivre. Bien sûr, nous pouvons aussi survivre seuls, mais notre nature est tribale, sociale. En période de danger ou d'urgence, nous nous consolidons et nous unissons toujours pour survivre. Par conséquent, biologiquement, nous avons une récompense lorsque nous sommes entourés d'autres personnes et cela se reflète dans les relations à long terme. Il n'est donc pas surprenant qu'une étude de longue date ait révélé que les relations sont le facteur le plus important de la longévité et de la qualité de vie, plus que la nutrition et plus que toute autre chose. Cela correspond à elle, évolution, à la science et à la logique et il y a donc une belle fissure dans la libre pensée. Une étude à long terme a révélé que les relations sont le facteur de santé le plus important qui prédit la longévité et le bonheur. Ils ont également écrit un livre sur lui intitulé « Good Life ». De bonnes relations à long terme apportent prospérité et santé. Cependant, il y a un sentiment aujourd'hui que la tendance est de penser à court terme, mettre fin aux relations avec une fréquence élevée pour la « prochaine excitation », de démarrer un nouveau système, ou un partenaire plus jeune, et les femmes qui n'entrent pas du tout dans des relations, pour rester jeunes et libres. La différence entre les entreprises d'un an et les entreprises de 29 ans est comme le ciel et la terre. Notre tendance naturelle de survie est d'être avec des gens que nous connaissons depuis longtemps, tribu, c'est ainsi que l'évolution nous a créés. Dans les relations à long terme, les parties apprennent à se connaître profondément et développent naturellement un langage commun et unique qui permet au couple de promouvoir leurs intérêts communs. Et voici l'énorme avantage. La même idée fonctionne aussi dans les affaires. Une familiarité de longue date et de bonnes relations dans les affaires vous permettent d'avancer rapidement sans problème de méfiance qui entraîne beaucoup de temps inutile sur les accords de partenariat, les avocats et d'innombrables enquêtes et tests. Aujourd'hui, la « chasse en commun » du passé peut être se traduit par une bonne relation et la gestion de « l'entreprise familiale » ou le travail avec des amis sur un objectif commun. J'ai ressenti le manque de la « tribu » surtout quand j'ai quitté plus 500 après avoir travaillé ensemble pendant des années avec un objectif commun et une profonde connaissance. Investissement à long terme si vous ne voulez pas perdre, crypto, trading quotidien d'action, sport parié et tout un investissement à court terme et vous perdrez probablement. Il est très difficile de croire et de planifier un bénéfice d'un million de nids dans 10 ans, et non de gagner 10 000 nids demain. Les investissements à long terme conduisent en moyenne à un rendement à court terme plus élevé car ils permettent d'économiser des coûts ainsi que des délais d'entrée et de sortie. Le marché boursier a augmenté au cours des 50 dernières années à un taux annuel supérieur de 7% à l'inflation. En d'autres termes, environ tous les 10 ans, vous doublerez votre argent si vous vous en tenez aux indices sans sortir ni entrer. En revanche, les day traders, investissements à court terme, perdent la plupart du temps tout leur argent, lorsque l'argent va aux commissions et aux intérêts des bourses, des courtiers et des banques. Alors dites-vous, à laquelle de ces deux groupes devriez-vous appartenir ? Étude à long terme, la plupart d'entre nous sommes motivés par le désir de travailler facilement, à court terme, et d'être un peu paresseux. mais comme dans beaucoup de choses, cela vaut la peine de renoncer à la paresse pour un avenir meilleur, à long terme. Planifier des études pour 10 à 20 ans à l'avance donne un énorme avantage sur les autres et aussi sur soi-même. Un effort de quelques années, disons 4, rapporte à lui seul toute une vie, disons 50, étudier à l'école, c'est essentiel de penser à long terme. Lorsque nous envisageons d'étudier les mathématiques ou la physique à court terme, cela ne nous apportera pas grand-chose, mais à long terme, cela améliorera notre réflexion et nous donnera un avantage dans n'importe quelle matière que nous choisirons. Exemple, devrions-nous étudier dans une université ou collège? Un article sur la différence de salaire entre les collèges et les universités. Vaut-il la peine d'investir 2 ans dans l'amélioration des notes pour être admis dans une université reconnue? Évidemment. C'est agréable de voir que le mal ici est puni par un faible profit, entreprise que je connais qui pense que la plus éloignée est Amazon. Elle pense de nombreuses années à venir. La différence entre elle et les autres est qu'elle ne pense pas à comment gagner maintenant mais comment améliorer le service et les produits pour le client. Amazon place le client au centre. 2 choses qu'elle améliore constamment car Jeff Bezos s'est rendu compte que c'est ce que les gens recherchent, un prix moins cher pour les produits et une livraison plus rapide. Il ne fait aucun doute qu'ils améliorent la vie des clients. Lire et écouter des livres la vie est un défi, car dans la vie, nous sommes d'abord testés et ce n'est qu'après que nous apprenons, mais avec l'aide de livres, il est possible d'inverser l'ordre ci-dessus. La lecture est l'un des moyens les plus importants de progresser dans la vie et de rencontrer une réalité que nous n'avions pas vue avant que la réalité ne nous frappe. Voici la liste des livres que j'ai lus et aimés et qui nous ont aidés, entre autres, à établir plus 500 et à penser librement. Les livres que j'ai lus et Il est riche lisent des livres. 88% des personnes riches consacrent 30 minutes ou plus chaque jour à la lecture pour l'auto-éducation ou l'auto-amélioration. Les personnes qui réussissent lisent beaucoup. On sait que les riches développent des habitudes quotidiennes telles que l'activité physique, le yoga, un sommeil sain et la lecture. Est-ce une coïncidence? Je crois que non. Rappelez-vous ce que nous avons dit plus haut sur la façon dont la lecture améliore vos fonctions cognitives? Si vous êtes curieux de savoir quel livre il préfère, consultez la liste des meilleurs livres que les personnes qui réussissent lisent et que j'ai également lus. Pourquoi est-ce important pour vous et votre enfant lire des livres de fiction et biographiques? Les personnes qui écrivent des livres pensent généralement de manière abstraite et par conséquent, elles valent probablement la peine d'être écoutées, par rapport aux personnes qui n'écrivent pas de livres. Imaginez, les amis, les écrivains sont comme des chefs, mais leurs ingrédients sont des idées, pas des légumes. Ils font rebondir les pensées, font rebondir les idées et servent le tout sur un plateau de pages, décoré avec sagesse. Donc, si vous ne refusiez pas un repas de Gordon Ramsay, pourquoi refuseriez-vous un livre d'un auteur talentueux? C'est comme choisir un hamburger de restauration rapide plutôt qu'un repas 5 étoiles dans un restaurant. Vous pourriez vous demander, pourquoi préférerais-je les livres de non-fiction et les journalistes aux livres avec des intrigues? Eh bien, pensez-y de cette façon. Les livres de non-fiction sont comme des séances de gym pour votre cerveau. Ils stimulent vos muscles logiques beaucoup plus que votre roman policier moyen, où parfois la logique du détective semble être activée par des haricots magiques. Cependant, ne vous méprenez pas, les histoires de fiction peuvent également être un entraînement décent pour votre cerveau. Ils ressemblent plus à du yoga étirant votre imagination et votre empathie au lieu de la logique. Pensez-y, vous ne feriez pas confiance à un enfant de 5 ans pour conduire une voiture, n'est-ce pas? Alors pourquoi faire confiance à quelqu'un qui ne sait pas lire pour engager une conversation? La lecture aiguise nos capacités cognitives, tout comme les leçons de conduite aiguisent les compétences de conduite. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous entraînons l'intelligence artificielle? C'est un processus assez similaire à la façon dont nous, les humains, apprenons. Tout comme nous alimentons l'IA avec des tonnes de données, nous alimentons notre cerveau avec des informations, dont une grande partie provient de livres. Donc, fondamentalement, lire un livre, c'est comme mettre à jour votre logiciel interne, aucun codage requis. Dans les livres, vous trouverez une sagesse distillée, comme trouver une perle dans un coquillage. Ce transfert de connaissances s'apparente à la transmission d'un héritage familial de génération en génération, inestimable et éternel. Or, tous les livres ne sont pas créés égaux. Lire un livre écrit par une personne qualifiée, comme un universitaire ou un entrepreneur prospère, c'est comme obtenir les conseils d'un coach de vie chevronné. Ce sont le genre de livres qui vous donnent une dose de réalité, pas de fantaisie enrobée de sucre. Pensez-y, la plupart des gens qui ont laissé leur marque sur ce monde sont des rats de bibliothèque. D'Einstein, qui aimait probablement les livres plus que sa brosse à cheveux, à Elon Musk, qui complotait peut-être pour construire une bibliothèque sur Mars, à Bill Gates, qui pourrait probablement construire un fort avec sa collection de livres. C'est comme comparer une tarte aux pommes faite maison avec une barre chocolatée achetée en magasin. Bien sûr, les bonbons peuvent vous donner une ruée vers le sucre rapide, mais la tarte est extrêmement satisfaisante et nutritive. Un livre écrit par un professeur d'économie sera généralement plus substantiel qu'une vidéo TikTok créée pour recueillir des likes. Considérez Warren Buffett, l'homme qui lit probablement plus en une journée que la plupart des gens ne le font en un mois. Mantra pour son succès ? Livre, l'investisseur intelligent. Ce n'est pas qu'il réussisse et donc appelle, mais qu'il lise et donc réussisse. Alors la prochaine fois que vous hésitez à prendre un livre, rappelez-vous, vous n'êtes qu'à un livre d'être le prochain Warren Buffett. Eh bien, en quelque sorte. Comment écouter des livres et où acheter des livres ? Livre audio, l'ouïe est une capacité que nous avons depuis plusieurs millions d'années pour tuer la lecture qui a plusieurs milliers d'années, la conclusion est claire, c'est beaucoup plus naturel écouter un livre que de l'entendre. La raison pour laquelle certaines personnes préfèrent lire est uniquement due à l'habitude et non à la capacité. Certaines personnes ne lisent pas beaucoup et il y a de nombreuses raisons à cela, notamment des troubles de la lecture qui rendent difficile la lecture continue de longs livres. C'est là qu'interviennent les livres audio, livres enregistrés que vous pouvez écouter sur votre téléphone ou tout autre appareil connecté à Internet. Les livres audio sont une merveilleuse façon d'acquérir toutes les connaissances et la sagesse qui existent dans le monde sans consacrer un temps particulier à la lecture. J'écoute moi-même habituellement des livres audio en conduisant. En exerçant la libre pensée, vous vous rendez compte qu'écouter des livres et lire des livres sont très similaires. L'évolution montre que l'ouïe et l'écoute nous sont encore plus naturels, 7 millions d'années, que la lecture, disons 5000 ans. Écouter des livres est possible sur Audible, Storytel. Acheter des livres à la maison, Amazon et Steam. Pourquoi les livres sont-ils si gagnés de l'argent ? Les livres nous donnent de nouvelles façons de penser le monde économique et les pouvoirs qui s'y trouvent. Ici, les journaux économiques de haute qualité tels que WSJ, Damark sont particulièrement importants. Lors de la lecture, nous imaginons ce que nous lisons ou entendons, et ainsi l'imagination et la réflexion se développent considérablement. Les livres sont généralement écrits par des personnes très intelligentes et sont choisis par les éditeurs, et ce sont de très bons filtres. Lors de la lecture, en particulier de livres théoriques, nous apprenons en fait de nouvelles choses et étudier développe la pensée et maintient ma capacité mentale. La calomnie est mauvaise. J'ai fait un changement sur moi-même et j'ai arrêté la mauvaise habitude que j'avais de rire à d'autres et parler d'eux d'une manière désobligeante, même s'ils le méritaient à plusieurs reprises. J'ai réalisé que c'est surtout nocif pour moi. Essayez-le, ça marche. La Bible nous enseigne de ne pas dire du mal des autres, connu sous le nom de « calomnie », est essentiel non seulement pour le bien-être des autres mais aussi pour notre propre bien-être. En évitant de parler négativement des autres, nous pouvons maintenir notre santé mentale et émotionnelle et contribuer à créer un environnement positif autour de nous. L'une des raisons pour lesquelles éviter les discours négatifs contribue à notre bien-être est que cela nous aide à cultiver une image de soi positive. Lorsque nous parlons gentiment des autres, nous démontrons des qualités telles que la compassion, l'empathie et la compréhension. Ces qualités reflètent positivement notre caractère et, à mesure que nous les développons, nous nous sentons mieux dans notre peau. Ceci, à son tour, améliore notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Une autre raison est que ne pas dire du mal des autres peut conduire à des relations plus fortes et plus solidaires. Lorsque nous évitons les commérages et les calomnies, nous établissons la confiance avec ceux qui nous entourent, favorisant un sentiment de communauté et d'appartenance. En retour, nous bénéficions du soutien émotionnel et des encouragements qui découlent d'avoir des relations positives. Ce soutien social peut être essentiel à notre santé mentale et à notre bien-être général. De plus, éviter les discours négatifs aide à prévenir les conflits et les malentendus, qui peuvent être émotionnellement épuisants et stressants. En parlant avec gentillesse et respect aux autres, nous favorisons un environnement paisible et harmonieux. Cela réduit la probabilité d'arguments et de différends, ce qui nous permet de profiter d'interactions et d'expériences plus positives. En conséquence, notre niveau de stress diminue et notre bien-être émotionnel s'améliore. De plus, lorsque nous nous abstenons de dire du mal des autres, nous nous alignons sur la Torah et les commandements de la Bible. Cet alignement peut nous donner un sens du but et la direction, ce qui contribue à notre bien-être général. Pour beaucoup de gens, vivre selon leurs croyances spirituelles apporte confort, paix intérieure et un sentiment de satisfaction plus profond. Les biais de pensée que notre cerveau travaille sur nous disent que notre environnement et nos gènes déterminent à quoi ressembleront nos vies, mais notre prise de décision est beaucoup plus importante que l'un ou l'autre. Un biais de pensée est de penser à partir d'une impulsion où il n'y a pas de logique et de connexion aux besoins de ceux dont la pensée est biaisée. Les individus créent leur « réalité » à partir de leur vision du monde sans être biaisés. Un exemple de biais mental. Lorsque quelqu'un achète une voiture chère simplement parce que son voisin a une voiture chère. Il n'y a aucune raison rationnelle à ce comportement et il provient de la jalousie d'un voisin, préjugé de l'envie. Afin de penser correctement et clairement, nous devons savoir ce qui nous fait penser de manière incorrecte et peu claire. Tout comme vous évitez l'alcool avant un voyage ou un test fatidique. La prise de décision et le jugement sont les principaux facteurs d'influence sur notre vie de tous les jours, mais pas seulement sur notre prise de décision, mais aussi sur tous les facteurs qui nous influencent. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qui affecte la prise de décision et de les améliorer. Des biais existent pour diverses raisons évolutives. Par exemple, une grande partie de notre façon de penser est construite pour la chasse-cueillette, mais nous vivons dans un environnement moderne, où faire ses courses au supermarché ne nécessite pas de capacité de chasse avancée, ni de capacité de cueillette particulière. Il est donc probable que ces biais soient canalisés ailleurs et faussent notre réflexion. Cette distorsion peut être corrigée en comprenant les biais qui la provoquent. Comme les animaux, nous travaillons principalement pour nous nourrir, nous abriter et nous reproduire, ainsi que pour obtenir des informations sur ces trois éléments. Les informations placées devant vous ici ont été recueillies en se tenant sur les épaules de géants tels que Charlie Munger et bien d'autres. Dans le passé, les préjugés étaient plus bons que mauvais, sinon ils auraient été anéantis au cours de l'évolution des humains. Ils fonctionnent assez bien compte tenu de la capacité mentale des humains et c'est pourquoi ils ont été préservés au cours de l'évolution. Les préjugés peuvent être utilisés pour répandre le bien comme pour répandre le mal. L'une des causes importantes des divers préjugés est notre désir de cohérence afin que les actions et les opinions du passé soient compatibles avec la réalité et nos opinions d'aujourd'hui. S'il n'y a pas une telle compatibilité, on l'explique en changeant la réalité et non les opinions. On veut que le « je » ne change pas car sinon il s'est trompé et alors on a de l'instabilité donc dans bien des cas quand il y a une guerre entre « moi » et « la réalité », le « moi » gagne. Parce que je n'avais pas tort parce que je suis spécial et stable dans mes opinions ou est le hic ? Lorsque plusieurs préjugés opèrent en même temps, nous perdons complètement la pensée logique et correcte pour nous ou pour l'environnement. Par exemple, dans les jeux d'argent à la table de poker, les biais d'incitation, d'association et de réciprocité agissent sur nous, tout comme la pizza agit sur trois mécanismes différents qui n'existent pas dans la nature, le sucre, les graisses et les protéines. On ne peut pas gérer ces stimuli quand ils apparaissent ensemble. Un exemple d'utilisation positive de ces biais. Biais de surinfluence d'une personne en autorité. Dans les hôpitaux pour éviter le biais d'une personne en autorité, c'est-à-dire les médecins, les infirmières ne prenaient pas tout pour acquis et vérifiaient ce que les médecins demandent. Ce biais de « jalousie », ce n'est pas la cupidité qui anime le monde, c'est l'envie. L'un des biais les plus tacites, mais l'un des plus importants. Pensez à un autre exemple de ce parti pris. Comprenez le pouvoir de la jalousie dans les années anciennes. Proverbe 27. La cruauté est brûlante, et l'oiseau se lave. Et qui résistera, face à la jalousie. La jalousie nous fait prendre de mauvaises décisions sur le long terme, comme acheter une voiture de sport parce que notre voisin en a une. Entraînez-vous à ignorer la jalousie que Maggie veut une fois faire éclater. Le préjugé, j'ai grandi comme ça, est le plus grand préjugé sur notre planète qui se réchauffe et est un sous-préjugé du préjugé de propriété. La plupart de nos opinions ont été plantées en nous par nos parents et d'autres sont venues de l'environnement où nous avons grandi sans réfléchir, sont-elles vraies ou non ? Et si vous ne retenez rien d'ici, prenez au moins ce point. Nous n'avons pas réfléchi à la plupart des opinions et des modèles que nous avons dans la tête, car nous avons grandi avec eux. Une grande maison, les légumes sont sains, des chaussures de course pour absorber les chocs, sont vraiment vrais parce que vous avez grandi en sachant que tout cela est vrai. Non. Sous ce biais vient la tendance à maintenir le statu quo, nous préférons les erreurs de ce que nous faisons maintenant que la peur de faire un changement et ensuite de faire une erreur. Nous voyons cela comme beau dans les régimes qui ne changent pas, ainsi que par rapport aux ultra-orthodoxes en Israël décrits par Ben Gurion. Le parti pris, scène, c'est en fait je suis grand et je suis beau car sinon je ne serais pas sur scène ou dans son long cours, je suis sur scène. C'est un parti pris qui marche sur ceux qui se tiennent debout sur des scènes telles que les premiers ministres, les PDG, les commandants, les médecins, les psychologues, les pilotes, les célébrités et tous ceux que le public regarde avec envie. Celui qui se tient sur la scène voit l'admiration d'une partie du public et s'en explique inconsciemment ses qualités et la qualité de son jugement. Ses proches sont influencés par le public et acceptent bien sûr ses opinions sans trop de doute et renforcent encore plus ses qualités. C'est aussi là qu'intervient le parti pris d'enraciner une opinion dans l'activité. Par le fait même d'être sur une scène, il enracine ses opinions dans l'activité et chez celui qui en parle. Et bien sûr, les spectateurs qui sont venus regarder ont également agi et enraciné l'opinion à cause de l'activité. Il faut être sur la scène pour ressentir l'intensité de l'amour du public, tout comme les drogues de l'admiration et du pouvoir déconnectent la personne. Debout sur la scène de la réalité tant qu'il ne s'y oppose pas et qu'il y a des gens oui autour de lui et pas de vrais gens qui reviendront même à la réalité. Ceux qui souffrent du biais sont les téléspectateurs parce qu'ils sont affectés par le biais d'autorité. Ensuite, il y a une célébration, parce que la personne qui se tient sur la scène souffre du préjugé « je suis grand » et les spectateurs souffrent du préjugé « d'autorité ». Quand je suis descendu de scène pour la première fois, j'ai senti le « eh ». J'ai vu à quel point je m'adorais, et j'en voulais plus. Mais je l'ai combattu pour revenir à la réalité. Le plus grand ennemi de la libre pensée est notre ego, il ne nous permet pas de remettre en question nos opinions existantes et renforce les préjugés. C'est comme ça que j'ai grandi. Enracinement des opinions actives, déni partialité, et bien d'autres. Dès que nous avons compris qu'il n'y a pas de substitut à notre pensée indépendante, libre pensée, et qu'elle ne peut être achetée à quelqu'un avec de l'argent, nous avons compris une leçon importante pour la vie en général et nous avons avancé dans la libre pensée en particulier. De même pour recevoir des conseils, le consultant vous dit ce qui est bon, et la plupart du temps vous recevez automatiquement les conseils du consultant rémunéré, et malheur à vous. Il y a deux façons de gérer cela, comprendre qu'il manque le conseil et le corriger comme un tireur d'élite corrige ses blessures quand le vent souffle, ou dans le bon sens, apprenez un peu sur le sujet à l'aide des conseils, et comprenez ce que la bonne façon d'agir est. Le biais de « propriété » est l'un de nos plus grands et principaux biais concernant une opinion, un produit ou un service. C'est pourquoi nous achetons de grandes maisons, ne changeons pas d'avis et avons tendance à nous considérer comme spéciaux. Lorsque nous possédons un produit, une opinion ou autre chose, nous attribuons plus de valeur à la propriété qu'elle ne vaut. Si nous avons construit le produit ou pensé à l'opinion, la valeur de la propriété est encore plus forte. Lorsque nous construisons une maison, des études montrent que nous allons la valoriser à un prix supérieur au prix du marché. Lorsque nous pensons à une idée, comme celle-ci par exemple, nous pensons qu'elle est bien meilleure qu'elle ne l'est réellement. Contre les conquérants, tout comme une forteresse, ne laisse entrer que ceux qui vendent et ignorent tous les autres. L'esprit ne veut pas gaspiller d'énergie inutile sur d'autres opinions et veut constamment être parfait en ce qui le concerne. Ce biais est similaire à « c'est comme ça que j'ai grandi », mais c'est différent parce qu'il y a une hypothèse qu'il y a déjà une opinion à laquelle j'ai pensé ou un modèle dans ma tête. Vous voyez cela incroyable chez les chiens? Essayez de obtenir de la viande d'un Rottweiler qu'il a obtenu. Sous le biais, tendance à l'inaction, le biais de propriété rend difficile pour nous de « tuer » les choses et aussi notre tendance est toujours à l'inaction et donc nous préférons laisser les choses telles qu'elles sont, mais dans cette situation l'inaction est comme l'action de « laisser le processus continuer à exister ». C'est pourquoi il est important de définir à l'avance des critères par condition et par date pour « tuer » les processus. Privilégiant les incitations et les renforts plutôt que la discrétion, Xerox a tenté de comprendre pourquoi la nouvelle machine ne se vendait pas aussi bien que l'ancienne jusqu'à ce qu'il modifie la rémunération. Pour les vendeurs, les gens agissent et changent d'avis en fonction des incitations et des renforts. Par conséquent, si vous voulez comprendre la décision ou la recommandation de quelqu'un, il est conseillé de savoir quelles sont ses incitations. Le parti pris, l'homme au marteau. L'homme au marteau recherche un endroit où frapper avec le marteau même s'il peut y avoir d'autres solutions et d'autres problèmes. Dans les investissements, les gens viennent au système de trading dans le but d'appuyer sur le bouton d'achat, c'est ce que le marteau sait faire, mais la plupart du temps, vous n'avez rien à faire. Lorsque nous avons une maladie ou une douleur, le syndrome se manifeste lorsque nous ne faisons rien et attendons. Plusieurs préjugés se combinent au syndrome de l'homme et du marteau, c'est pourquoi il est si fort. Sa réputation professionnelle dépend de la performance, et c'est un préjugé incitatif, il s'aime lui-même et ses idées, et il les a exprimées à d'autres personnes. un biais de cohérence et d'engagement, le biais de complication au lieu de simplification, à son origine dans l'intuition, notre volonté de résoudre le problème qui se pose à nous au lieu du problème qui a causé le problème, et aussi de ne pas essayer de réfléchir. Peut-être que notre hypothèse de base est fausse. Le biais, déni. Vous trouverez les mères des criminels les plus évidentes pour la condamnation, elles croient toujours que leur fils est innocent. C'est une bonne protection pour notre âme délicate et cela fonctionne généralement très bien, mais cela ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Quelque chose entre les deux. Par exemple, à la question « Êtes-vous droitier ou gaucher ?» la réponse aurait beaucoup plus de sens si elle était donnée à une question précise, en faveur des colonies. Qu'est-ce qui est important dans l'éducation? Qui va gagner les élections? La bonne réponse est 44% Golda et non, Golda. Deux personnes, l'une fumait, est décédée à l'âge de 87 ans, et l'autre ne fumait pas, est décédée à l'âge de 40 ans. Nous voulons choisir un camp ici. Vous pouvez fumer et atteindre l'âge de 87 ans, mais la phrase correcte est, il est possible de fumer et dans 15% d'atteindre l'âge de 87 ans. Biais, l'activité crée une opinion. Lorsque nous réalisons une action, nous établissons l'idée plus fortement. Lorsque l'opinion est erronée, cela peut conduire à un grave biais de réflexion. Quand toute une classe crie « mort aux juifs », les cris même renforcent cette opinion. Les camps de rééducation de toutes sortes connaissent très bien cette tendance. Nous le voyons également dans les relations. L'amour se développe à partir du fait que les gens sont ensemble. Dans le biais de propriété, lorsque nous avons construit le produit ou pensé à l'opinion, le biais s'intensifie encore. Biais d'association, lorsque nous voyons un cow-boy sur un cheval en train de fumer une cigarette Marlboro, on fait le mauvais lien entre l'homme à cheval pour fumer des choses terribles se produisent à cause du préjugé susmentionné, qui est causé par notre désir de trouver une explication rapide aux choses. Il y a un bel homme sur un cheval? Oh, c'est la cigarette. Dans la savane, cela fonctionnait mieux. Y a-t-il un rugissement de lion? Ah, c'est un lion. À Savannah, la scène n'était pas mise en scène, le biais, réciprocité et vengeance. J'étais box en avril 2023 et je jouais au poker à une table avec un gros buy-in, ma première fois avec de telles sommes, j'ai tout perdu avec un bluff, j'ai fait un sous-jeu appelé 7-2 au poker. Google a augmenté le prix et j'ai pensé que ChatGPT lui enlevait un marché avec un meilleur produit. J'ai eu du mal avec la perte de poker box, contre mes règles j'ai court-circuité Google pour récupérer la perte de poker. Cette fois, j'ai pu retourner la perte, mais pour moi c'était une revanche pour la perte, un peu étrange mais j'ai compris que c'était complètement biaisé. Dans l'étude de notre désir de vengeance, on voit clairement que les humains sont enclins à vengeance même si la vengeance elle-même les fera se sentir beaucoup moins bien et les fera penser à l'autre côté beaucoup plus de temps. À cause de ce biais, on voit beaucoup de guerres entre les gens, les familles, les villages et les pays réciprocité. Plus d'une fois vous entendrez des vendeurs de produits, j'utilise aussi un téléviseur comme celui-ci à la maison. Bien sûr, avec l'esprit libre avec un peu de maths, on se rend compte qu'il ment probablement, mais ça marche. Nous voulons faire partie d'un groupe, c'était la tribu, achetant les mêmes produits et le même comportement. La réciprocité crée la camaraderie et la camaraderie nous donne le sentiment d'appartenir. Les gens deviennent fous des petites choses qui manquent parce qu'elles reviennent non seulement affection, mais aussi inimitié à cause de la tendance à la réciprocité. Et dans ces cas de petites crises peuvent dégénérer jusqu'à devenir incontrôlables. La peur de passer à côté nous fait parfois faire des choses qui ne nous sont pas bénéfiques et les commerciaux l'utilisent comme prévu. Il reste un aspirateur de plus. Le biais du « faites ce qu'on attend de nous », demande beaucoup et puis demander un peu, dans une expérience intéressante, on a demandé aux passants d'emmener des délinquants juvéniles dans un zoo pendant une semaine, puis nous avons réduit la demande à un après-midi. Le changement a considérablement augmenté la réponse par rapport à une question directe sur un après-midi. Nous ne voulons pas décevoir la partie en face de nous. Le parti pris de « cohérence et d'engagement » parmi les nazis s'est démarqué et s'est poursuivi et s'est poursuivi et s'est renforcé. Nous voulons paraître cohérents dans ce que nous faisons et aussi stupides soit-il même si cela fait preuve de sagesse. La société ne voit pas d'un bon œil un changement d'opinion. Il zigzague. L'eau à température ambiante a une taille différente. Nous sommes des créatures comparatives et relatives. Vous voyez ce biais à l'extrême chez les enfants? Ils ne se soucient pas de combien ils ont, l'essentiel est que les frères et sœurs obtiennent exactement la même chose. Et c'est là que le biais d'ancrage est visible quand on a un prix initial du produit. Le biais, d'autorité, les nazis ont utilisé la tendance naturelle des humains et de la culture allemande à respecter l'autorité et une grande partie de l'appareil nazi a suivi un commande que j'ai reçu d'en haut. Dans les hôpitaux, vous constatez tous les jours les effets du phénomène, c'est ce qu'a dit le médecin. Le biais de dépendance chimique, la consommation d'alcool, de drogue et de pilules en tout genre entraîneront la déformation de la réalité et de mauvaises décisions. C'est toujours agréable d'être devant un joueur ivre à la table de poker. La plupart du temps, la partialité du jugement s'accompagnera d'un déni obstiné et d'une moralité qui se détériorera progressivement et parfois d'un effondrement moral complet. Bien sûr, notre cerveau ne sait pas comment gérer les substances qui ne sont pas dans notre corps dans la nature. Les Indiens ont échangé 1400 langues de bison contre quelques gallons de whisky de l'homme blanc. C'était l'animal sur lequel ils vivaient depuis des milliers d'années, mais ils en chassaient encore 1400 juste pour les langues. Aussi à cause du parti pris de l'engagement et de la cohérence, ils ont choisi un nombre donc c'est probablement le meilleur. C'est bien mieux qu'un jeu où les gens choisissent un nombre. Les machines à sous l'utilisent à chaque tour où le parieur manque. Mes enfants lorsque nous sommes entrés dans l'arcade ne jouaient qu'aux machines qui avaient un élément de chance et distribuaient des billets pour acheter des cadeaux. Les jeux qui ne donnaient aucune sorte d'argent pour acheter des cadeaux n'étaient pas pris. Mathématiques. Ce biais donne aux personnes analytiques un avantage significatif dans presque tous les domaines de la vie moderne qui sont basés sur les ordinateurs et la logique. Il est très difficile pour notre cerveau de penser de manière probabiliste comme « la probabilité que l'événement se produise était de 80% et qu'il ne s'est pas produit à la fin ». On se souviendra que cela ne s'est pas produit. J'ai botté le but et j'avais 80% pour marquer. Je retiendrai que j'ai raté et non que je marque dans 80% des cas. Par exemple, un voleur qui dit « je ne l'ai pas fait avant et je ne le ferai pas à nouveau », nous avons tendance à lâcher prise, mais en termes de probabilité, il l'a déjà fait et le fera encore. Les gens parlent d'anecdotes, mais une anecdote est un échantillon avec un seul élément. Un verre de coca devant nous, nous en boirons beaucoup plus, tout comme nous utiliserons la vue qui est placée devant nos yeux pour expliquer un phénomène. D'une certaine manière, nos tendances psychologiques rendent les choses indisponibles parce que lorsque je saute d'une chose à l'autre, la tendance à la cohérence et à l'engagement me fait bloquer. Boum. Et c'est l'erreur numéro 1. Le biais, stress. Lorsque nous sommes stressés, tout notre mécanisme de prise de décision se dérègle pour des raisons biologiques. La pression devrait nous aider à nous échapper et à ne pas décider d'investir 1 million de shekels dans un appartement. Vous pouvez voir cela dans un jeu de poker d'une manière incroyable. Quand quelqu'un perd une grosse somme, il se met en colère et stressé et ses prochaines décisions seront particulièrement mauvaises. La solution la plus simple ici est de se lever de la table et de ne jouer que lorsque vous êtes calme. Où avez-vous été, dans la fondation de la Terre? Agad, si tu savais qu'elle a compris. La physique est censée décrire les phénomènes dont nous sommes témoins dans les lois et les formules. Une compréhension physique de base est très utile pour la libre pensée car les modèles physiques peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. En exerçant une réflexion libre sur la physique, il est possible d'arriver à des hypothèses correctes avec une probabilité élevée. Tout ce que vous lirez ici est un pari avec des probabilités élevées et rien de plus. Toutes les hypothèses ci-dessous sont basées sur des mathématiques 1 plus 1 avec logique. Ceci n'est pas un article scientifique ou prétend en être un, il montre seulement une pensée libre sur la physique. L'univers est très fini pour penser et parier sur l'hypothèse que l'univers est fini et c'est parce qu'il n'y a rien d'infini dans la nature. C'est pourquoi nous continuerons à utiliser ce modèle et conclurons notre hypothèse qu'il est faux de miser sur un modèle dont on ne peut pas savoir s'il fonctionne ailleurs, et des choses infinies ne sont actuellement ni prouvées ni observées. Nature. L'univers est fini et donc une telle expérience de pensée. Lorsque nous allons dans une certaine direction à la fin, nous revenons au même point où nous sommes maintenant, sinon l'univers est infini. Le Big Bang est l'hypothèse du moment où le Big Bang dit selon ses chercheurs, les conclusions des observations. Il y a 13,7 milliards d'années, il y avait le Big Bang. Il y a 5 milliards d'années, l'univers a commencé à se développer rapidement. Wikipédia depuis le Big Bang jusqu'à il y a 5 milliards d'années, l'univers s'est étendu de façon exponentielle, à l'opposé de l'accélération, la nature est cyclique presque partout où nous regardons. Tout a un cycle de vie. Une bonne hypothèse serait que l'univers a aussi une durée de vie qui est d'un Big Bang à l'autre. Des points ci-dessus ainsi que de l'hypothèse que l'univers est fini, donc retour au même point, on peut conclure que nous avons dépassé le point médian il y a environ 5 milliards d'années. Autrement dit, ce qui cause l'accélération de l'expansion de l'univers est l'attraction de la matière dans l'univers vers elle-même. À partir de là, vous pouvez calculer, le temps d'un coup à l'autre, 13,7-5, astérisque 2 égale 17,4 milliards d'années, le temps d'aujourd'hui au prochain coup, retour au point, égale 17,4-13,7 égale 3,7 milliards d'années, ce temps est dans le en supposant qu'il n'y a pas de choses continues dans la nature et pas d'infini, on peut comprendre qu'il existe une petite unité de temps inférieure à pour le temps 0 où le temps ne bouge pas. La plus petite unité de temps est constante. D'après le point ci-dessus, nous comprenons que nous nous déplaçons comme dans des images à la télévision ou dans des sauts en fait. Nous ne nous déplaçons pas continuellement. Une explication de la limite de vitesse d'Uranus nous est connue grâce aux observations et à la théorie de la relativité d'Einstein. Il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Lorsqu'un corps augmente sa vitesse par rapport à un autre corps, le temps s'écoule plus lentement pour lui. Une explication que le cerveau humain peut comprendre pour ces deux phénomènes, ainsi que pour le fait que le temps est discret, et qu'il existe une sorte d'onde de mise à jour partout dans l'univers qui met à jour la position de chaque substance dans l'univers. La vitesse des ondes de mise à jour est exactement la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Lorsque nous avançons avec les ondes de mise à jour, notre temps passe plus lentement à cause de l'effet Doppler. Les ondes de mise à jour font que le mouvement dans l'univers ressemble à des cadres et que l'espace est étalé le long de la ligne de mise à jour car la mise à jour n'est pas simultanée dans le tout l'univers. Si la matière se déplace près de la vitesse de la lumière, son temps s'arrête presque car les ondes de mise à jour ne peuvent pas l'atteindre. La vitesse de la lumière elle-même n'a pas de masse car il n'y a pas d'impact des ondes de mise à jour. La vitesse de la lumière est limitée par quelque chose de fondamental dans l'univers qui est au-delà de la vitesse de la lumière, car les ondes gravitationnelles sont également limitées à la vitesse de la lumière. Autrement dit, les ondes gravitationnelles et la lumière sont limitées à la même vitesse. C'est une excellente explication qu'il y a des vagues de mise à jour dans l'univers. Il n'y a aucune preuve de vagues de mise à jour, mais il sera possible de montrer qu'il y a des vagues de mise à jour si elles montrent si la direction de la vitesse a une signification pour le temps et pas seulement la taille de la vitesse. En attendant, il n'y a que la libre pensée qui me le prouve, la vie hors de la Terre, mon pari est qu'il n'y a pas de vie intelligente hors de la Terre pour les raisons suivantes. Où sont-elles ? Ils ont eu quelques bons milliards d'années pour se développer et arriver ici. Lorsque vous revenez à l'évolution et que vous arrivez à des organismes qui ne sont presque que de l'ADN, on peut supposer que la vie a commencé sur Terre et n'a pas été implantée par une météorite ou similaire. Il est recommandé de lire cet indice sur l'origine de la vie. La Lune, le champ magnétique, la distance du Soleil, Jupiter pour prévenir l'impact des météorites, l'eau, les extinctions massives et 3,5 milliards d'années de développement pour les mammifères montrent que la probabilité est très faible. Tu regardes les étoiles, tu as le sentiment que celui qui nous a mis ici, il voulait que nous restions sur Terre. Il y a un grand vide et des distances inimaginables. Une liste interminable d'écoles améliorant la capacité de réflexion à travers l'apprentissage des mathématiques et d'une deuxième langue, qui sont deux des seules matières qui améliorent la capacité à se penser et pas seulement leur connaissance. Mesure du succès dans les écoles, le niveau de bien-être, intégrité, des élèves. Apprendre l'anglais au niveau d'une langue maternelle, l'anglais offre une passerelle vers les vastes connaissances que l'humanité a accumulées. Toutes les connaissances académiques sont en anglais ainsi que la littérature théorique et les livres professionnels. La connexion avec le monde en dehors d'Israël se fera en anglais et parce que l'humanité est tellement liée aux besoins économiques des enfants, c'est un outil obligatoire. Par exemple, à l'âge de 10 à 11 ans, j'ai vécu dans la Silicon Valley, ce qui m'a donné d'énormes avantages dans la vie en langue anglaise et en général dans la culture américaine pour faire les choses à 100%. Environnement scolaire, arbres, terrain de sport et un environnement qui semble naturel. L'investissement est payant. Pour enseigner la pensée correcte, il est essentiel d'expliquer ce qui nous fait penser de manière incorrecte. L'étude des « biais de la pensée » y contribuera grandement. Les matières obligatoires que tout le monde, y compris les Arabes et les religieux, étudieront sans exception, l'hébreu, la citoyenneté, les mathématiques, l'anglais, la physique, le sport et une bonne nutrition. L'un des objectifs importants est d'unir tous ces citoyens autour de l'amour d'Israël, sans distinction de religion, de sexe ou de race. Ceci est essentiel pour l'unification des citoyens du pays et l'égalité des chances pour les étudiants à l'avenir, liberté d'action pour les administrateurs scolaires, en particulier dans la détermination des matières obligatoires supplémentaires et spécifiques pour les écoles, et mesure nationale, création d'un système vidéo et audio pour tous les matériaux d'études par matière et par classe par les meilleurs professeurs. L'ensemble des leçons aidera les étudiants malades et ceux qui ont manqué des jours d'école et ceux qui veulent étudier seuls. Dans certaines écoles, les heures de travail des enseignants peuvent être économisées si les élèves apprennent grâce à la présentation des leçons enregistrées. Éducation pour faire, comment accomplir une tâche et comment le faire, en général. Éducation pour l'ordre et l'organisation, afin de réussir dans les tâches et atteindre les objectifs, ils doivent être organisés. Il est possible et important d'enseigner comment faire cela et quels outils utiliser, Excel, Asana, feuilles de papier, etc. En Amérique, les écoles enseignent l'organisation et l'ordre. L'éducation physique. L'éducation financière, comment fonctionne le système économique et pourquoi il vaut la peine d'augmenter le capital et d'économiser de l'argent pour l'avenir. Comptabilité, la profession où le plus d'investissement est nécessaire. Des études montrent que la séparation des garçons et des filles dans l'apprentissage des vraies matières améliore les résultats des filles, il vaut donc la peine d'envisager de séparer les sexes. Matière obligatoire, physique de base. Étudier la physique aide beaucoup à comprendre le monde qui nous entoure et à construire des modèles mentaux corrects. Lire à l'école, pour donner aux élèves la capacité de lire s'ils ne l'ont pas acquise à la maison, c'est très nécessaire pour une vie intelligente. Encadrement, comprendre ce qu'est un modèle mental et comment le créer. L'apprentissage analytique aide beaucoup à créer des cadres de pensée corrects. Apprendre l'anglais à un niveau de langue maternelle, apprendre une deuxième langue présente de nombreux avantages, notamment l'amélioration de la réflexion et de la prise de décision. L'éducation pour atteindre le bien-être, santé, réussite, pensée positive, sens et des relations. Il est recommandé de lire Flourish de Martin Seligman. L'éducation pour une pensée indépendante comme défense contre la désinformation provenant de sources telles que YouTube, TikTok, etc. Enseigner quel est le meilleur chemin vers la vérité, analyse, lecture, enquête et compréhension de la réalité la plus proche de la vérité. Devoir, il est important de donner des leçons et des devoirs que vous avez préparés en tant qu'éducateur pour l'auto-apprentissage et la gratification différée. Dans toutes les fausses théories selon lesquelles il faut réduire les devoirs, c'est le parent qui se met au centre, pour se faciliter la tâche, et non ses enfants. Optimiser l'apprentissage, pour absorber, il est important d'éduquer au maximum et il est important de savoir ce que vous voulez absorber dans une certaine tâche. La plupart des enfants abordent le problème sans savoir ce qu'ils veulent améliorer et comment mesurer l'amélioration. Sans comprendre ce que vous voulez améliorer et comment mesurer, il est très difficile de trouver la bonne solution. Par exemple, un enfant veut créer une chaîne YouTube, l'indicateur qui veut s'améliorer sera le nombre de pourcents qui ont commencé et fini de regarder. Comment l'améliorer ? Apprendre à parler clairement, améliorer la mélodie dans la voix, les sujets, etc. Tester comment chaque direction d'amélioration améliore l'indice global.